Oh que oui, bon lundi! 11h, c'est pas vrai, 10h, 2 minutes.
Je peux y aller tout de suite si tu veux.
Ouais. Hey, c'est parce que Sandra Foudy est passée dans les dernières minutes en studio.
Ça sent pas bon du tout ici.
Hein?
Non, mais en tout cas, je sais pas, j'aurais aimé ça t'sais, qu'on
moi,
reste là.
Dans l'heure de 9h à 10h, je quitte le studio pour aller préparer le point de max, tout ça. Fait que je suis pas en studio quand Sandra Foudy arrive puis présente ses affaires aux gars, puis les deux gars ont leur assiette. T'sais. Mais Sandra Foudy laisse tout le temps une assiette pour tout le monde sur la table de cuisine. Puis... là, fait que là, j'ai goûté, puis je dois être honnête, s'il en reste plus, c'est vraiment de ma faute, là. J'ai vraiment été égoïste.
Ben là, c'est que t'as l'air de Scooby-Doo alors que l'émission commence. Tu salives encore.
Ouais.
Là.
Ah non, c'est délicieux. Salade, saucisse.
Ça sent le ciel, si.
Ouais, vraiment. Fait que si, de temps en temps, vous voyez que je commence à parler de façon la gueule pleine de salive, on va dire les mots comme ils sont, ben c'est ça. C'est la faute à Sandra Foudy. Et la faute de moi aussi qui suis pas capable de me contrôler. Mais c'est ça, c'était vraiment délicieux. Fait que c'est ça que je voulais dire. Comme ça, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe dans les prochaines minutes si j'ai de la misère à enfiler les mots. Puis là, ben, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est 13 degrés à Québec, maximum de 19 aujourd'hui. Il va y avoir du soleil, mais il pourrait aussi y avoir des averses. On parle de 40% de possibilités. Souviens-tu la semaine passée quand on s'enlignait pour avoir une semaine un peu... Ben, du moins...
Incertaine.
Ouais. Hey, là, c'est trois grosses, belles journées qui s'en viennent. Demain, mardi, 23 généralement ensoleillés. Mercredi et jeudi, copier-coller, 26 degrés, gros soleil.
Pas plate.
Là, on est dans le mois de juin, là, pour vrai de vrai. Puis après ça, bon, peut-être que pour le week-end, il va y avoir des petits nuages un petit peu plus, puis peut-être la petite pluie, mais on regardera tout ça rendu là. Sur la route, tout a l'air beau. S'il y a quoi que ce soit, 418-971-1021 par texto. D'ailleurs, bonjour Catherine et Max, quelqu'un qui nous écrit. Bonjour à toi, c'est toujours un plaisir, n'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? As-tu un gros week-end, Kat Bachand?
Un week-end où est-ce que ça a commencé par corder seul ma corde de bois à la pluie?
OK.
Oui, bon, ça... c'était mon gym ben de vendredi après-midi, mais ça a très bien été. Mais je l'ai déjà mentionné, je passe mes fins de semaine du côté de Chaudière-Appalaches.
Oui, c'est ça. Tes week-ends vont se ressembler pas mal.
Oui, puis ça fait du bien. Puis il arrive un phénomène que je suis certaine que ça peut se prouver scientifiquement. Quand j'arrive là-bas, là, j'en plaisais mon chalet, mettons, là. Je change complètement de gear. Là. Mon énergie n'est plus la même. Puis là, j'arrive vraiment en mode, là, OK, là, je peux me déposer, puis tout ça. Puis là, j'étais avec ma grande toute la fin de semaine. On s'est fait un super beau souper vendredi. Puis là, on voulait aller voir le match après avec des amis. Puis là, quand on a eu fini notre souper, on a regardé c'était quoi le score. Bon, ça valait la peine qu'on sorte à la pluie. Puis là, on fait 4-0, ça va être beau. On va rester ici au chaud. Fait qu'on est resté installé où est-ce qu'on était. Puis on s'est couché de bonne heure. Samedi, il faisait super beau. Venteux, mais beau. J'ai essayé de lire mon livre, puis je ne faisais que m'endormir. Fait que j'ai fait deux siestes.
Bien, c'est bien correct.
Des fois, ça prend ça, la fin de semaine. Là. Fait que, oh, de toute évidence, ma fin de semaine n'a pas du tout ressemblé à la tienne, Max.
Non, tu sais, le genre de fin de semaine... que t'as tellement fait d'affaires que t'as l'impression que c'était une fin de semaine de trois jours. Là.
Okay.
Vendredi soir, match du Canadien au Centre Vidéotron. Le seul match des séries que je n'aurais pas regardé jusqu'à la fin. C'est le seul match que j'ai pas checké au complet parce qu'après deux périodes, j'étais démoralisé. Toute ma gang était démoralisée. J'ai dû m'en va chez nous. Fait que je suis parti chez nous, j'écoutais la radio. J'ai pogné la fin pour voir l'élimination du Canadien. Mais c'est sûr, ça me tentait plus de rester au centre. J'étais pas de bonne humeur.
Ben non. Ben
ouais.
Là,
puis en même temps, ça, c'est sur le coup, parce qu'après, les émotions, reste que le Canadien a surpris cette année. D'ailleurs, dans la dernière heure, je me suis tapé ça au complet, Kent Hughes et Jeff Gorton faisaient le point sur la saison du Canadien, sur les séries, tout ça. Fait que, regarde, Kat Bachand m'a pris plein de notes. Tu vas pouvoir nous lire ça. Tu vas être capable de reconnaître mon écriture.
Mais pour vrai, oui, Max, okay. C'est une belle main d'écriture, je trouve. Je serais capable.
Qu'est-ce qui vient de se passer avec les lumières? Non, je pense pas. La TV fonctionne. C'est juste passé quelque chose de très particulier avec les lumières.
Ah, ça, c'est l'histoire de ma vie.
Ouais.
Oui, c'est normal. Quand
t'es
avec moi, Max, c'est
normal. C'est un signe de
l'au-delà?
C'est un signe de quelque chose?
Oui, mais bon, écoute. Oui, vrai.
Ah, ouais, hein? Eh bien.
C'est comme ça.
OK. Fait que c'est ça, j'ai pris toutes plein de notes, là, fait que dans les prochaines minutes, on va faire un petit tour de tout ça, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses, mais je veux vous parler de ma fin de semaine, parce que je parlais du fait que
beaucoup de choses en peu de temps.
Ouais, tu sais, le match canadien, puis après, je suis allé me coucher parce que le lendemain, le samedi, j'avais une grosse journée. Je partais le matin vers Montréal aux alentours de 8-9 heures. J'étais embarqué avec Gab Marino qui m'a gentiment lifté parce qu'on s'en allait voir le show de Luke Combs à Montréal. Puis là, sur la route, Gab, il était avec sa blonde, puis il me dit, hey, nous autres, on s'en va à Ronde en arrivant.
Oui.
Puis là, moi, je me suis dit, ben, je vais aller me promener, il fait beau, je vais aller me promener au centre-ville de Montréal. Je vais aller prendre une petite bière de terrasse. Puis là, finalement, j'allume que c'est le défilé de la victoire de Montréal. Le défilé de championnat de la victoire avec un rassemblement à Place des Arts, en tout cas.
Place des Festivals?
Ouais, c'est même ça s'appelle, je pense que oui.
Je sais pas c'était où.
Ouais, bref. Fait que là, je me dirige là, puis j'ai comme pogné la fin des festivités. Puis j'étais comme sur le côté par où les joueurs descendaient par en arrière à la fin de la scène. Fait que les joueurs se passaient full proche. J'ai tellement trouvé ça beau, là. Comme je suis venu émotif. Oh. Comme de voir que... Puis tu sais, la Ligue de hockey, la LPHF, c'est pas fait pour tout le monde. Dans le sens où moi, je le sais que c'est pas fait pour moi. Que je vais voir un match de ça, il se score pas beaucoup de buts. Je trouve que ça va pas assez vite. Je trouve que c'est pas fait pour moi, puis c'est bien correct. C'est pas fait pour tout le monde. Mais de voir les filles, très majoritairement, qui étaient là et qui capotaient leur vie, quand les joueurs... J'ai fait, comment tu peux ne pas vouloir que du positif pour cette Ligue-là? Tu sais, moi, ça m'enlève rien, là. Que l'aréna soit plein pour regarder la victoire de Montréal, je vais jamais cracher sur le hockey féminin. Je pense que c'est correct de le dire que, hey, c'est pas un produit qui est fait pour moi. Mais j'ai aimé...
Mais c'est impossible pour toi de l'apprécier, même si tu sais que c'est pas la même affaire, là. T'es pas capable d'apprécier ça quand même. Fait que, tu pourrais pas aller voir, admettons, un match d'une ligue inférieure que la Ligue nationale, puis quand même...
C'est parce que moi, je suis un grand fan de LHGMQ, tu sais.
Oui.
Mais même LHGMQ, c'est supérieur en termes de calibre à la LPHF. Okay. C'est pour ça que... Puis tu sais, en même temps, je dis ça, si je vais voir un match puis je commence à suivre une équipe, tu sais, peut-être que si... Puis même que... Même, je dirais que d'avoir vu l'amour qu'a reçu cette équipe-là samedi à Montréal, ça m'a donné le goût d'avoir une équipe à Québec, puis ça m'a donné le goût qu'on puisse vivre quelque chose de même à Québec.
Je comprends donc.
Fait que,
ben oui.
C'est sûr que je vais toujours préférer regarder la LHGMQ, mais ça, c'est moi. Mm-hmm. Tu sais, que moi, le plus positif, je trouve, dans cette ligue-là, dans cette équipe-là de la Victoire de Montréal, c'est ça permet aux jeunes joueuses de rêver. Tu sais, les joueuses qui avant jouaient. Puis là, tu savais, tu sais, tu pouvais pas vraiment faire carrière là-dedans. Là, de plus en plus, ben, tu peux aller universitaire puis faire tes études en jouant au hockey. Puis après ça, tu as cette ligue-là qui t'attend. Fait que non, j'ai vraiment trouvé ça beau en Simonac, ce que j'ai vu samedi à Montréal. Des filles pleurer parce que Laura Stacy a signé sa casquette. J'ai vraiment trippé. Puis tu sais, je suis allé là par pur hasard. Ben, c'était pas un hasard dans le sens où j'ai vu que c'était là.
Fait que t'en
j'ai dit, je vais y aller. Ouais. Mais ouais, j'ai vraiment trouvé ça fucking beau.
Ben, moi, je trouve ça fantastique de penser que si on dit que le hockey, c'est notre sport national, ben, qu'il soit le plus inclusif et diversifié possible, que les femmes puissent gagner leur vie, que des femmes puissent penser en faire carrière, que les femmes puissent penser en faire carrière très, très, très longtemps dans une ligue qui correspond à leurs aspirations. Fait que ça, moi, je trouve
c'est
ça extraordinaire. Oui, puis quand la victoire de Montréal est venue à Québec, c'était plein. Là. Fait que clairement, il y a un public pour ça. Puis moi, je trouve qu'il faut que ça soit encouragé définitivement.
Vraiment. Fait que félicitations à la victoire de Montréal. Fait que ça, c'était mon début d'après-midi. Après ça, je me suis enligné. Et puis, tabarouette, pas capable de rentrer dans un resto parce que toutes les bars où je voulais aller prendre une petite bière, c'était le soccer qui jouait.
Ouais, OK.
C'était
oui,
la finale de la Ligue des... puis là, au début, j'allumais comme pas. J'étais comme... Voyons donc, tout est plein de même. Puis même les terrasses, puis même qu'il y a des places où ils mettaient des draps pour que le monde sur la terrasse puisse voir la game en dedans sans trop être caché par le soleil. Tous les bars débordaient à Montréal samedi après-midi. J'ai fini par m'en trouver un où finalement, j'avais même pas de place à la terrasse. Fait que j'ai juste mangé une poutine en buvant une petite bière avant de me diriger au show de Luke Combs au Parc Jean Drapeau. Merci à Steph de Sony. On avait un petit rassemblement de gens du domaine avant avec Gab, avec notre patron Steven aussi. Fait qu'on a pu rencontrer les artistes. Fait que j'ai une photo avec Luke Combs. Ça, c'est quand même
cool.
Je l'ai
vu passer. Il a tellement l'air content d'être là.
Ah oui.
Toi aussi, là, d'ailleurs.
Oui,
là, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même Luke Combs.
Mais tu sais, puis jaser.
Il fait pas. Ah, ouais, enfin, Max, t'es là!
Non, c'est ça. Puis, tu sais, avant, avec Luke Combs, on a peut-être un petit peu moins jasé, mais avant, j'osais un peu que Dierks Bentley, qui était la première partie, grand fan de hockey, puis qu'on a jasé de hockey un peu. L'autre d'avant, Ty Myers, un jeune de 18 ans, tellement talentueux, un gars qui risque d'avoir toute une carrière. Puis c'est drôle, il a mentionné qu'après le show, il allait regarder le match numéro 7 entre les Spurs et le Thunder, parce que c'était un fan des Spurs. Puis là, moi, j'ai dit que j'étais un fan du Thunder, fait que c'était bien sympathique comme échange aussi. Bref, vraiment une belle soirée au Parc Jean-Drapeau, qui lance comme officiellement ma saison des festivals. Là, c'était pas un festival officiellement. Il faut dire que Parc Jean-Drapeau, je passe pas mal mon mois d'août là au complet avec Oshiaga le premier week-end. Là, après ça, t'as Hillsonic où moi, je vais pas. J'en profite cette fin de semaine-là. C'est Cigale. Faut que ça tombe bien. Je peux aller à Cigale à la place à Québec.
Surtout que la programmation de Cigale est vraiment sa coche.
Toujours. Après ça, t'as l'Assaut. Puis t'as le Vans Warped Tour cette année. Fait que 3 fins de semaine sur 4 du mois d'août, je passe ça au Parc Jean-Drapeau à Montréal. Fait que ça m'a comme donné un petit avant-goût. Puis c'est Luke Combs, c'est toujours solide en show. De ce que je me rappelais d'un show de Luke Combs, on dirait que dans ma tête, ça brassait plus, puis c'était plus le party, puis ça bougeait. Puis tu sais, il y a beaucoup de tunes très mollo aussi, Luke Combs. C'est que ça fait... Ça n'a pas fait que c'était un mauvais show, là, au contraire. Là, ça reste un excellent spectacle, mais il y a des bouts très mollos, mettons.
Mais moi, je l'avais vu quand il est venu sur les plaines. Fait que, tu sais, je peux pas le comparer à autre chose, mais j'ai vraiment adoré mon show de Luke Combs.
Ah oui, c'était vraiment solide.
Parce que, tu sais, c'est très festif, mais comment je peux te dire ça? Ça me donne l'impression d'un feu de camp, guitare, une bière. Tu comprends?
Ouais.
C'est pas... C'est tellement du bon temps.
C'était plusieurs bières.
Oui, non, c'est, je le sais. Mais c'est pas un méga show rock où est-ce que tu vas commencer nécessairement à faire du stage dive. Mais c'est tellement un beau moment partagé avec les gens qui sont là comme une communauté à la limite. Les gens connaissent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ces tunes. Ben ils chantent tout le long. Fait que moi, c'est ce que j'avais apprécié du show de Luke Combs que j'avais vu.
Il y a une tune où sa petite tradition de tournée, c'est d'inviter quelqu'un sur scène à faire un cold shot, fait qu'à caler une bière. Vendredi soir au show, c'était Georges Saint-Pierre qui était allé. Et là, samedi, Dierks Bentley nous avait d'ailleurs donné le scoop. C'est les gars du Canadien qui sont allés. Fait que t'avais Cole Caulfield, Nick Suzuki, Jakub Dobesch, puis t'as Gallagher qui est embarqué aussi. Au point où tu te dis, Gallagher, ça avait pas trop rapport. C'était un genre de party d'adieu de Gallagher. En tout cas, puis d'ailleurs, on y reviendra dans les prochaines minutes avec les commentaires de Kent Hughes et de Jeff Gorton au point de presse de fin de saison. Mais tout ça pour dire que quel beau moment quand les gars du Canadien sont embarqués sur le stage. Puis même avant ça, moi, j'étais comme pas trop proche d'où ils se trouvaient. Mais tu sais, ça a l'air que les gars avaient vraiment du fun. Puis qu'autour, c'était souvent des gros go, abs go. Puis que le monde cheerait pour les gars du Canadien. Des fois, regarder quasiment ça plus que le spectacle. Fait que les gars ont du fun. Il y en a qui disent « Ah, ben là, c'est 24 heures après une défaite. » Regarde, si dans 4-5 ans... Le Canadien choke à chaque année en série, puis que les gars produisent pas les gros joueurs, les Caulfield, les Suzuki, puis que là, dans 4-5 ans, on fait du surplace, puis que là, le lendemain, ils sont à un show, le lendemain de l'élimination, là, je vais comprendre. Là, c'est parce que cette année, on n'est pas là pantoute. Là. On a fini top 3 de la Ligue nationale de hockey, dans les 3 dernières équipes à être en vie. Je pense que les gars avaient le droit d'aller fêter le lendemain. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça.
Je suis tellement d'accord avec toi. Ces gars-là, dans les derniers mois et demi, mettons. Là.
Ah, ils nous ont fait rêver. Ils nous ont fait vivre. Ils ont fait vibrer le Québec. Allez-y,
exact.
Virez votre brosse à Luke Combs.
Ils ont porté le Québec sur leurs épaules, l'économie du Québec sur leurs épaules. Ils sont allés à la guerre. Puis là, ben écoute, on est rendu là. Tu pourras pas refaire le passé. On peut-tu maintenant se retrouver ensemble, passer un beau moment, puis ça donne ces shows de Luke Combs? Pourquoi pas?
Exact. Puis beau move, les gars, aussi. Il y avait leur chandail de la victoire de Montréal sur scène. Tu sais, il y avait le fameux le panneau stop de Dobesch, là. Il y en avait un qui avait été fait pour Desbien, la goaleuse de la victoire. Puis Dobesch est embarqué sur la scène avec son collier où il y avait dans le panneau stop Desbien. Fait que beau clin d'œil, ça a l'air qu'ils faisaient la fête ensemble, là, une couple de filles de la victoire, puis les gars du Canadien.
C'est
fait
beau,
que, non, c'était vraiment cool. Vous autres, votre fin de semaine, 418-971-1021. Au retour de la pause, on va faire les nouvelles avec Kat Bachand. On va aussi faire le tour là, de ce que je me suis noté avec mes mains de soie sur ma feuille du point de presse du Canadien. C'est à peu près une heure, là, fait qu'il y a quand même beaucoup de stock. J'ai noté ce que je trouvais le plus intéressant. Malheureusement, je pense qu'on était plusieurs à avoir hâte de voir une liste détaillée des blessures. T'sais, quel joueur était blessé où? Les Flyers de Philadelphie avaient publié ça, eux autres, dès la fin des séries. T'avais vraiment les noms des joueurs avec telle blessure. Puis tu voyais, tabarouette, était magané. Là, de ce qu'on a compris, de ce qui a été mentionné, on n'aura pas nécessairement ça pour le Canadien, mais quand même, dans les prochaines heures, on devrait avoir quelques petits détails, plus d'ici la fin de la journée, parce que pour l'instant, tout ce qui a été mentionné, c'est que selon les premières, puis là, les gars vont faire leurs tests médicaux aujourd'hui, puis tout, puis okay. On pourra confirmer. Mais selon les premières observations, les gars, tu sais, il n'y en a pas un qui aurait besoin d'une opération qui va rater son été d'entraînement. Il n'y aurait pas d'opération nécessaire, fait que juste ça, c'est déjà une bonne nouvelle.
En effet, qu'on en jase
au retour, ça, et les nouvelles. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard, 10h17.
Le Point de Max avec Max.
10h22 minutes dans le Point de Max à Boulevard. Et avant de passer aux nouvelles, pas le choix d'y aller avec cette nouvelle sportive.
Ben oui.
On est dans un bilan de saison chez le Canadien. Et dans les dernières minutes, puis j'en parle, puis je t'émotif aussi parce que Brandon Gallagher, ça a été le cœur du Canadien durant mon enfance, mon adolescence de fan du Canadien, de voir Brandon Gallagher de ses débuts, dans le temps de la Egg Line avec Alex Galchenyuk et Lars Eller. Voici ce que Brandon Gallagher, devant les journalistes, a dit dans les dernières minutes. Vous allez l'entendre, là, il est devenu très émotif, a même dû se retirer du scrum.
Just to call the Bell Center home, the very, very first time I set foot in this organization, management, coaches, the teammates I've had along the years, there's been ups and downs, but I don't have a single regret. So it's pretty clear. I'll be kind of moving on here, but, incredibly, incredibly. Sorry. Jeez. No, I'm just very fortunate.
What's going through your mind?
Just give me a second.
Brandon Gallagher, très émotif. Confirme que c'est assez clair qu'il va move on. Donc, un
peu
de façon de dire.
I had a thought about my mom.
Pense à sa mère.
I was just thinking about how the teammates supported me through that. And...
Oh God. Pense à comment ses coéquipiers l'ont supporté quand il a perdu sa mère.
But that's just something that always will stick with me. Just give me a second here, guys.
That's okay, of course.
Donc là, se retourne, se retire du scrum, demande aux journalistes de lui donner quelques instants. Là, dans les minutes suivantes, il est revenu un peu à ses esprits puis a repris le scrum avec les journalistes.
J'ai le moton en l'entendant. Oh, je sais que toi aussi. Là,
d'entendre Brandon Gallagher, je vous rappelle un peu ses propos, je vous les traduis. Il y a eu des hauts et des bas. Tellement content d'avoir pu appeler le Centre Bell ma maison. Et c'est pas mal clair que je vais move on, que...
Est-ce qu'il va être échangé ou c'est la fin de sa carrière?
L'affaire avec Brandon Gallagher, c'est qu'il reste une année de contrat c'est autour de 6,5 millions. Fait que, tu sais, si tu l'échanges, il faut que tu payes pour qu'une équipe prenne ce contrat-là parce que Brandon Gallagher n'est plus de calibre pour être payé ce salaire-là. Puis ça devient un peu un boulet à ce moment-là pour une équipe. Fait que les options pour le Canadien, c'est de l'échanger en payant pour qu'une équipe le prenne. Peut-être l'échanger en gardant une partie de son salaire tout en payant pour qu'une équipe le prenne. Tu peux racheter son contrat, ce qui va faire que tu vas avoir moins à payer cette saison que le 6,5 millions que tu aurais sur ta masse. Mais à ce moment-là, tu vas devoir le payer aussi pour la saison d'après. Un certain montant qui serait encore une fois plus bas que le 6,5 millions, mais réparti sur deux saisons. Puis une autre option serait que Brandon Gallagher rende un peu service aux Canadiens. Puis là, on est dans les technicalités, mais Brandon Gallagher pourrait dire « Je ne suis plus en état de jouer parce que je suis blessé à long terme. » Et là, à ce moment-là, son contrat ne compterait pas sur la masse salariale du Canadien. Brandon Gallagher serait encore payé, je crois, via les assurances. Puis fait que ce serait comme une façon déguisée de prendre sa retraite tout en restant payé. Puis là, je m'avance, là. Mais bref, dans tous les cas, moi, c'est le bout d'après où tu le vois craquer. La journaliste lui demande qu'est-ce
qui se
passe.
À quoi tu penses actuellement, ouais. C'est quoi tes pensées?
Puis que Brendan Gallagher dit « Ma mère m'a popé en tête. » Puis là, il dit « Puis là, je repense à comment mes coéquipiers m'ont supporté durant cette période-là où il a perdu sa mère du cancer. » Vraiment, ça brise le cœur d'entendre, d'entendre Brendan Gallagher, un guerrier qu'on n'oubliera pas à Montréal, qui aura... T'sais, même quand cette équipe-là va gagner une coupe dans les prochaines années, il ne faudra pas oublier l'impact qu'aura eu Brendan Gallagher sur bien de ces jeunes joueurs-là quand ils sont arrivés à Montréal. Il a été un mentor pour les joueurs. Ça confirme un peu ma théorie de quand j'ai vu Brendan Gallagher arriver sur la scène du parc Jean-Drapeau avec Luke Combs.
Toi, tu voyais presque un dernier tour de piste.
Parce qu'il n'y avait pas d'affaires là. C'était les vedettes qui étaient là. La vedette des séries d'Obèche avec Caulfield et Suzuki. Puis, tu sais, c'était leur nom qui était écrit sur l'écran. Puis là, tu voyais Caulfield qui tenait Gallagher de même puis qui a fait un long câlin de 30 secondes quasiment sur la scène. Okay. Ça ressemblait vraiment à un genre de party d'adieu. Fait que ça confirme un peu... en fait, Gallagher l'a quasiment dit mot pour mot. Là. Sans dire mot pour mot, en tout cas, dans le bout qu'on a entendu, là, sans dire mot pour mot, j'ai joué mon dernier match à Montréal quand il dit... C'est assez clair que je vais move on. C'est pas mal ça que ça veut dire.
Oh ouais, ben de ce que je comprends, moi, les headlines que je vois passer, là, c'est qu'il confirme qu'il a disputé son dernier match avec le Canadien. Fait que c'est même pas subtil. Là. Il confirme que c'est ça.
Donc, à suivre pour ce qui est du reste. Donc, les joueurs qui vont continuer à prendre la parole dans le vestiaire du Canadien. On va y aller tout de suite avec les grandes lignes que j'ai retenues, que je me suis noté du point de presse qui a duré un bon 40 minutes facile de Kent Hughes, directeur général, et Jeff Gorton, qui est aux opérations hockey. Là, en gros, c'est les deux grands dirigeants du Canadien. Donc, Kent Hughes qui a été questionné, bien sûr, sur ses plans pour l'été. Ce qu'il mentionne, c'est que ce sera établi après les discussions avec les coachs, avec les joueurs. On veut voir un peu où on en est rendu dans la tête de tout le monde. Mais ce qu'il dit, c'est que l'expérience des séries va aider l'équipe. T'sais, même sans aller faire d'acquisition, là, ce qu'on a appris dans ces séries-là va aider l'équipe. Mais mentionne que quand même, lui-même, Kent Hughes et Jeff Gorton ont du travail à faire pour ajouter à cette équipe-là. Va toujours regarder pour avancer les choses, avancer où on en est peut-être rendu avec le plan. Mais ça va vraiment dépendre des opportunités. Puis ce qu'il dit, c'est qu'il ne sera jamais all-in en sacrifiant le futur. Il y a un plan, on va continuer de le suivre, peut-être le devancer un petit peu, mais on ne va jamais sacrifier du gros futur, là, notamment pour des joueurs de location qui seraient là juste à très court terme. C'est pas quelque chose qui semble intéresser Kent Hughes. Par rapport au plan de cet été, toujours, Jeff Gorton, lui, a mentionné que tous les étés apportent leur opportunité, mais c'est dur de le savoir d'avance. Puis il donne les exemples de l'an passé. On ne savait pas nécessairement que Noah Dobson allait être disponible. Il l'a été, on a été agressif, on a bougé pour aller chercher Noah Dobson. Même chose avec Zachary Bolduc, qu'on est allé chercher chez les Blues de Saint-Louis en sacrifiant Logan Mailloux. Cache pas que sont agressifs depuis les dernières années, vont continuer à l'être s'il y a des opportunités. Questionner maintenant à savoir, bon, qu'est-ce qu'on a pu remarquer dans les dernières semaines quand on affronte des équipes en série comme les Hurricanes? Puis un point que j'ai bien aimé qui a été apporté par Gorton, c'est de dire perdre, ça peut donner faim. Parce que, puis là, il parle vraiment des Hurricanes de la Caroline, là, qui eux, c'était rendu une joke. Ils se rendaient tout le temps à la finale de conférence de l'Est, puis ils perdaient quasiment tout le temps en 4. Fait que tu sais ce que vient de vivre le Canadien face aux Hurricanes, les Canes l'ont vécu plusieurs fois dans les années précédentes. Ben ça, tu peux apprendre de ça. C'est un peu ce que disait Jeff Gorton. Kent Hughes, qui a pas fait de cachette, il dit « On n'est pas la meilleure équipe défensivement. » Ce qui a été très clair à ce niveau-là. A aussi abordé le côté plus physique des Hurricanes de la Caroline. Jeff Gorton a dit « Faut être meilleur partout. » La Caroline a été meilleure dans toutes les facettes du jeu. Fait qu'on se fait pas de cachette. Là, on est très transparent. Kent Hughes a été questionné parce que à date limite des échanges de la Ligue nationale de hockey, on a su que Kent Hughes avait travaillé longtemps sur ce qui aurait été une grosse transaction. Évidemment, on ne savait pas c'était quoi. on le sait toujours pas, mais un journaliste a demandé à Kent Hughes, cette transaction mystère-là, ça se pourrait-tu encore qu'on finisse par la ficeler? Il a mentionné que ça pouvait en effet être revisité. Maintenant, pour ce qui est de Kent Hughes, toujours questionné sur le travail de Martin Saint-Louis, puis s'est dit très content de l'ensemble. Lui, ce qu'il mentionne, c'est faut pas juste regarder la série contre les Hurricanes. Faut regarder la saison en général, puis généralement, très content du travail de Martin Saint-Louis. Mais il y a encore du travail à faire pour les coachs aussi et il s'attend à ce qu'il continue de s'améliorer. Jeff Gorton, lui, a défendu le travail du premier trio contre notamment les meilleurs défenseurs adverses. Il dit, ils nous ont tellement traînés sur notre dos toute la saison qu'ils sont peut-être arrivés en série. C'est sûr que ça se peut que ce soit plus compliqué. Mais à ce moment-là, les joueurs de soutien ont fait le travail. Fait qu'à un moment donné, ça vient un peu créer l'équilibre. Kent Hughes, directeur général, questionné sur Kirby Dach qui est agent libre avec restriction. Donc, si le Canadien décide de le qualifier, ben à ce moment-là, on aurait les négociations exclusives un peu avec lui, alors qu'on pourrait aussi le laisser partir, c'est le 29 juin, je crois. Hughes qui dit Kirby est très talentueux, mais dit qu'il a été très malchanceux aussi avec ses blessures. C'est un cas qui sera discuté dans les prochaines heures. A pas voulu s'avancer sur les cas de Brendan Gallagher, Patrick Laine et Samuel Montembeau. Là, on comprend dans le cas de Gallagher qu'il aurait disputé son dernier match à Montréal. Puis une chose qui a été mentionnée par Kent Hughes sur Brendan Gallagher, c'est on lui doit le respect. Fait qu'on va jaser avec lui, puis on va faire ce qu'il veut. C'est un peu ça que j'en ai compris. Pour ce qui est de Laine, mentionne qu'il a été incroyable comme coéquipier, qu'il ne sera jamais inquiet de donner une référence positive concernant Patrick Laine. Pour ce qui est de Samuel Montembeau, dit, c'est aussi encore une fois incroyable personne, incroyable coéquipier. Il est dans la meilleure forme de sa vie, semble-t-il. Fait qu'à voir pour ce qui va se passer avec Montembeau. On voudrait idéalement signer Ivan Demidov à long terme, si lui le désire. Gorton pense que l'an prochain, on pourrait déjà être une meilleure équipe défensivement avec le travail qui a été fait dans les dernières semaines, les derniers mois. Croit aussi que David Reinbacher pourrait être un gros morceau encore, malgré les difficultés, malgré les blessures. Pour ce qui est des blessures, les joueurs passent des tests médicaux aujourd'hui et on devrait avoir des nouvelles plus tard aujourd'hui par rapport à tout ça. Il n'y a rien qui a été mentionné là. À date. Personne ne devrait avoir besoin d'opération. Ça, c'est quelque chose de très positif, là, de savoir que les gars pourront vraisemblablement tous poursuivre leur entraînement cet été, leur entraînement
estival. Mélange de repos, entraînement, récupération, sans dire que tu vas falloir exact. Que tu tapes une grande convalescence puis que tu vas devoir, après ça, te taper de la physio puis de la réhabilitation. C'est déjà quand même positif, je trouve.
Arriver prêt pour ce qui est du prochain camp d'entraînement. Et Kent Hughes qui a terminé en remerciant les partisans également qui ont été incroyables. Puis c'est quelque chose que Gorton avait mentionné, plutôt aussi de dire, tu sais, autour de la ligue, dans la ligue, les joueurs le voient ça aussi. Puis ça peut être tentant pour des joueurs de venir jouer à Montréal. Il faut que ces joueurs-là puissent vivre avec la pression puis tout ça. Mais tu sais, pour des gros compétiteurs là, qui sont capables d'en prendre la pression, là, de jouer devant une foule comme ça, devant des partisans comme ça, ça peut être très, très, très intéressant. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est du résumé du point de presse de Kent Hughes et de Jeff Gorton. Les joueurs qui continuent à être questionnés par les journalistes à l'instant. Je vous rappelle que dans les dernières minutes, c'est Brendan Gallagher qui a pas mal confirmé qu'il avait disputé son dernier match à Montréal.
Ouais.
Catherine Bachand maintenant dans les nouvelles.
Tu veux qu'on fasse cela ou on fait une pause?
On va faire une pause, ça a raison. Je regarde le temps qui nous reste.
Mais non, mais oui, je pense que ça serait peut-être mieux qu'on fasse une pause, mais c'était très pertinent. Puis, admettons, là, la fille de hockey que je ne suis pas, parce que je ne suis pas ça comme toi, ça a vraiment été quand même un extraordinaire divertissement dans le printemps
ben oui.
moche qu'on a eu au Québec. Les rassemblements, les happenings, se retrouver 18 000 personnes pour aller regarder une télé au Centre Vidéotron ou à l'Agora à pluie battante, ou peu importe tous les rassemblements que vous avez faits autour de vous. Je suis quand même reconnaissante pour ce qu'on vient de vivre avec la saison du Canadien, puis de savoir qu'on se dirige vers un genre de continuité. Ben c'est encourageant pour pour la suite des choses. Puis moi, ça, je trouvais ça pertinent d'avoir ces informations-là.
On continue de suivre ce qui se passe dans le vestiaire du Canadien. Pour dire que pour l'instant, c'est le petit Lane Hudson qui est devant.
Puis le petit Cole Caulfield,
oui. On l'a pas vu encore. Ça s'en vient peut-être dans les... C'est vrai que je peux plus dire le petit quelqu'un d'autre que Cole Caulfield. C'est trop dans la bouche de tout le monde. Fait qu'au retour, les nouvelles avec Kat Vachon.
Le Point de Match et Catherine Vachon.
Boulevard 102.1.
10h40 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Les joueurs du Canadien qui quittent le vestiaire ce matin pour un été de repos et d'entraînement. On est à l'heure du bilan. Actuellement, c'est Juraj Slafkovský qui est devant les journalistes. Et je vous rappelle ce qui est tombé dans les dernières minutes, annoncé par le petit numéro 11 lui-même. Tout indique, ou du moins lui l'indique, Brendan Gallagher a disputé son dernier match dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Maintenant, ce sera dans quelle modalité? Est-ce qu'il va prendre sa retraite en laissant des millions sur la table? Est-ce qu'il va faire, entre guillemets, semblant d'être blessé pour être sur la liste des blessés à long terme puis être payé de cette façon-là sans avoir trop de poids sur la masse salariale du Canadien? Est-ce qu'il va être échangé quelque part? Évidemment, il faudrait que le Canadien donne quelque chose à une équipe pour prendre Gallagher et son contrat. Mais tu sais, dans une équipe, dans une jeune équipe en reconstruction, d'avoir un modèle comme Brendan Gallagher, c'est clair que ça a une certaine valeur. Il y aurait l'option de racheter le contrat de Gallagher également. Fait que ça, on en saura peut-être plus dans les prochaines heures, mais pour l'instant, devant les journalistes, les larmes aux yeux, a même craqué, a dû arrêter de parler, prendre quelques secondes. Brendan Gallagher qui a pas mal dit « Ouais, pour moi, c'est terminé à Montréal. » On va continuer de suivre ça, évidemment, dans les prochaines minutes. En attendant, Catherine Bachand, un petit tour dans l'actualité.
Et ça vient tout juste de tomber, cette nouvelle-là. Puis là, je la lis un peu en même temps que je vous la raconte. Okay? C'est le deuxième procès de Carl Girouard, celui qui a été reconnu coupable des attaques au sabre dans le Vieux-Québec en 2022. C'est toujours pas fixé. Dans le fond, le ministère public vient de déposer une demande d'autorisation devant la Cour suprême du Canada pour contester le jugement qui a été rendu au mois de mars par la Cour d'appel du Québec. Si la plus haute cour du pays accepte d'entendre l'affaire, la poursuite va chercher à rétablir les verdicts de culpabilité qui ont été prononcés lors du premier procès. Cette démarche suspend donc pour l'instant la tenue d'un éventuel second procès. Au cœur du litige se trouve la question du silence qui a été gardé par Carl Girouard lors de son interrogatoire policier. La Cour d'appel a estimé que le jury n'avait pas reçu de directives suffisamment claires sur la façon d'interpréter ce silence dans l'évaluation de son état mental. La poursuite soutient au contraire que les jurys disposaient de tous les outils nécessaires pour trancher cette question-là. Carl Girouard, aujourd'hui âgé de 30 ans, avait comparu en personne au Palais de justice de Québec pour la première fois depuis sa condamnation en 2022. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité pour les attaques qui ont fait 2 morts et 5 blessés.
Un gros dossier à suivre aujourd'hui dans l'actualité de Québec.
Définitivement. Un homme de 52 ans a été arrêté pour un incendie criminel et négligence criminelle après un incendie qui est survenu dans une résidence de la route de l'aéroport la nuit dernière à l'ancienne Lorette. Les services d'urgence ont été appelés vers 2h40 et à leur arrivée, les policiers ont évacué 2 occupants de la maison. Les pompiers, eux autres, ont porté secours à un 3e résident qui est un homme de 71 ans qui était coincé au 2e étage. La victime a été transportée dans un centre hospitalier pour des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. L'incendie a été maîtrisé, mais la résidence a subi d'importants dommages. Au départ, c'est le commissariat aux incendies qui a pris en charge du dossier, mais là, comme on soupçonne quelque chose de criminel là-dedans, l'enquête a été transférée au SPVQ. L'unité d'identification judiciaire a également été déployée sur les lieux. On va essayer de déterminer tout ce qui s'est passé là-dessus. Le suspect est détenu et doit être rencontré par les enquêteurs. Histoire horrible. Une fillette de 3 ans qui se trouve dans un état critique après qu'un jeu gonflable ait été emporté par de violentes rafales. Ça s'est passé hier en fin d'après-midi du côté de l'arrondissement La Salle à Montréal. L'incident est survenu vers 16h30 dans une fête organisée. Selon les premières informations, les conditions météo se sont détériorées rapidement. Il y a un puissant coup de vent qui a soulevé le jeu gonflable, qui a projeté après ça le chapiteau jusqu'à l'autre bout. Il a projeté le jeu gonflable jusque sur un chapiteau qui est à l'autre bout du parc. 11 personnes ont été blessées. 6 d'entre elles ont été transportées à l'hôpital. 4 adultes, 2 enfants, puis la fillette de 3 ans est dans un état critique. On ne connaît pas trop la gravité des blessures des autres personnes. Ça s'est passé alors qu'il y a eu de violents orages et des rafales de vent qui ont frappé plusieurs régions du sud du Québec. As-tu vécu de la grêle, toi, hier? Moi, non là, mais...
Sur le retour de Montréal, il y a comme un quelques minutes, puis tu sais, ça a vraiment été... quelques minutes, puis on le voyait venir, puis on voyait que ça allait pas durer longtemps. Là, c'était juste une cellule orageuse. Il s'est mis à tomber des cordes, là, mais à, il mouillait fort. Puis c'était pas de la grêle, mais c'était de la grosse pluie. Ça a comme duré un 4-5 minutes, mais ça semblait être ça un peu hier, ce qui se passait. Puis c'est ce qui explique un peu la situation, vraisemblablement, que c'est arrivé super vite. Puis nous autres, c'est vraiment passé de... Il faisait soleil à orage... Ah, il fait soleil, là.
Oui.
Fait que vraisemblablement, c'est ça qui est arrivé, puis c'est ce qui explique pourquoi, parce que la réaction, c'est comme, mais voyons, qu'est-ce qu'elle faisait dans le...
S'il faisait pas beau, comment dans... ça se fait que
non,
je...
Non, c'est ça. Mais ça, c'est arrivé très vite, puis j'ai vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Tu parlais de grêle, là.
OK, non, je pensais vidéo de ça. J'étais là, sais-tu, j'ai pas tant envie de les voir, moi.
Pas de ça. Des vidéos de la grêle. Des bonnes, quasiment des balles de golf, là, puis ça s'accumulait à terre, puis c'était vraiment, encore une fois, quelques minutes qui semblaient chaotiques sur les routes dans le coin de Montréal.
Rassemblement suprémaciste blanc qui s'est tenu en fin de semaine, samedi, du côté de Shawinigan.
C'était chic, ça.
Ça fait beaucoup, beaucoup réagir, mais je suis quand même assez contente de voir l'espèce de montée de boucliers unanime. Là. Même la population de Shawinigan et tous les gens ont rapidement décrié tout ça.
Comment t'as dit, même la population de Shawinigan, ça sonnait même ça.
Non, mais attends, c'est parce que des fois,
je sais que c'est pas de même si vous voulez le dire, mais...
Ben, un peu, mais je t'explique pourquoi. Non, mais je t'explique pourquoi. C'est parce que quand il question de, je vais dire, intolérance dans ce cas-ci, OK? Des fois, là, on a pris un village au complet, puis on les a fait passer pour des Moses de colons, parce qu'il y avait un groupuscule de gens de cet endroit-là qui était, qui prenait vraiment beaucoup la parole. Dans ce cas-ci, je trouve que les gens de Shawinigan se sont levés rapidement, ils ont fait « Hey, non, là! »
Non,
que c'est pour ça que là, je cherche. Puis écoute, aidez-moi. Là. Je sais que les auditeurs savent exactement à quoi je fais référence. Il y avait eu, c'était dans le temps de la commission Bouchard-Taylor, puis on avait pris ces gens-là, puis on les avait fait passer pour des épais au bye-bye. C'était des gens qui s'étaient comme vraiment... qui avaient voulu, pendant un conseil municipal, il me semble, passer des règlements, là, tu sais, vraiment de façon... C'était des gens très intolérants, là. C'est pour ça que je trouve que c'est important de souligner que même les gens de Shawinigan se sont rapidement mobilisés pour dire « Hey, wow, wow, wow! »
C'était Héroville.
Merci. C'est à ça que je pensais, je le trouvais pas. Mais oui, c'est pour ça que je dis oui, c'était ce que je voulais dire par rapport aux gens de Shawinigan.
Ouais,
parce que les gens d'Héroville, ça avait l'air d'être assez concentrés.
Héroville, en janvier 2007, avait adopté un code de conduite pour les immigrants. Puis c'est dans toute l'histoire des accommodements raisonnables aussi que c'était venu tout ça.
Ouais.
Puis c'est ça, cette... ce code de conduite-là avait en effet créé une bonne controverse.
Voilà. Alors, ce groupe d'une vingtaine de personnes qui se sont réunies dans un parc avec une banderole comme message, je me souviens d'un Québec blanc. Les participants au rassemblement étaient tous habillés pareil, donc habillés de noir avec une casquette noire et portaient un foulard qui dissimule leur visage. C'est grand, c'est grand brave, un foulard blanc. La SQ dit faire des vérifications. La classe politique est sortie là, unanimement, là. Name it, sont tous sortis pour dire on condamne ça, puis ça n'a pas de bon sens. Alors.
C'est que, il n'y a rien qui dit que c'est du monde de Shawinigan aussi. Tu sais, c'est. Quand ces gens-là arrivent masqués, ça peut être du monde de n'importe où qui a décidé de venir mettre le trouble quelque part, là. Mais la banderole, je me souviens d'un Québec blanc, là. Ça fait-tu. Tu sais, je pense que d'un côté, on a peut-être trop diabolisé les débats sur l'immigration. On dirait que pendant une période, puis qu'on est peut-être encore un peu dedans, qu'à toutes les fois que tu veux apporter un point sur l'immigration, ben là, automatiquement, tu te fais taxer de racisme.
Oui.
Puis ça, moi, je trouve que ça n'a aucun rapport. Je pense qu'il y a bien des bonnes façons de débattre de « on veut-tu plus d'immigration, moins d'immigration? » Là, on n'est pas là-dedans pantoute. Là, on est dans quelque chose qui mérite de se faire dénoncer vivement. Hey, je me souviens d'un Québec blanc, ça a-tu pas de maudit bon sens? Là?
C'est terrible de dire des choses comme ça. Et je termine avec une opération policière qui va avoir lieu cette semaine, tout au long de la semaine. Ça commence donc aujourd'hui, du 1er au 7. C'est le service de police de la Ville de Québec qui va mener des opérations de surveillance dans plusieurs stationnements d'établissements publics et commerciaux du 1er au 7 juin dans le cadre de la Semaine québécoise de l'accessibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette nouvelle-là? Ça veut dire qu'on va surveiller les espaces de stationnement qui sont réservés à l'usage exclusif des personnes en situation de handicap. Si tu te stationnes là et que tu n'as pas les autorisations, tu vas te faire coincer. L'occupation illégale de ces espaces représente une problématique quotidienne pour ces personnes. Les aires de stationnement qui leur sont réservées contribuent non seulement à leur sécurité, mais également à leur accessibilité aux lieux publics. Alors, si vous connaissez des gens qui aiment emprunter ce genre de stationnement because j'ai le droit. Ben,
avertissez-les.
Passez-leur le mot. Mm. Ouais.
Et de jamais le faire, pas juste cette semaine. Là.
Non, jamais.
C'est jamais.
Jamais.
Mais cette semaine, s'ils le font, ils vont peut-être avoir une bonne raison de ne plus le faire par la suite parce qu'ils vont se faire pogner.
Ça serait peut-être la fin, puis ça serait parfait comme ça.
Merci beaucoup, Kat Bachand.
Merci, Max.
Écoute, qui est en train de parler aux journalistes? C'est le petit Cole Caulfield. On s'en va l'entendre quelques instants. C'est bilan de fin de saison du Canadien.
You know, the way he carries himself every day of his career has been special. So, you know, very lucky to take us share most of my young career with him.
Cole, what do you hold from the growth of the group this season, but also what you guys need to achieve to make sure you get there every year?
Yeah, it's you know, it's obviously not easy. You know, ran into a really good team, and you know, I guess we did beat some really good teams along the way. But every year, teams are getting better, teams learn. So, you know, obviously, didn't even go our way at all, and so we got a lot more work to do. And,
Donc Cole Caulfield qui mentionne qu'il y a encore beaucoup de travail à faire après avoir vu là, la façon dont on a dû s'avouer vaincu face aux Hurricanes.
Max, je viens de recevoir un communiqué de la part du ministère des Transports, puis je trouve que ça vaut la peine de le mentionner.
Allons-y.
Puisque c'était la route dans la région de Chaudière-Appalaches qui se retrouvait dans le top 10 des pires routes du Québec du palmarès de CAA. C'est à Sainte-Croix-de-Lobinière, la route 132, la route Marie-Victorin au village, c'est Kaboul. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi horrible. Eh bien, ce sera fermé pour que ça puisse être réparé. On va faire ça de 11h à 22h le 3 juin. Alors, c'est en plein cœur du village de Sainte-Croix, en plus que ça passe la route 132. Alors, le 3 juin, on va refaire ça. Max?
Fait que es-tu en train de me dire que quelques semaines après la publication de ce rapport-là, où ça a fait la manchette que cette route-là avait pas de maudit bon sens, on répare ça?
Écoute, je veux pas dire que c'est directement lié à ça, parce que je sais quand même qu'il y a des acteurs du milieu qui sont qui ont levé la main et la voix, beaucoup. Mais ça peut pas faire autrement qu'avoir aidé.
Mais
là.
Oui.
Parce qu'il y a pas une affaire aussi comme quoi, une fois que tu le sais, mais que tu n'as rien fait pour le réparer, puis que quelqu'un brise de quoi, on pourrait te poursuivre?
En effet.
Puis là, que tu as la preuve qu'il est au courant. Mais ouais. Là, quand c'est dans Paramarès ou CA, tu peux pas dire que tu le savais
peut-être.
Pas.
Peut-être. Mais en général aussi, on sait que le gouvernement a peut-être tendance à agir davantage quand des affaires sortent dans les médias. Puis on a un bon exemple de ça ce matin.
Oui.
Puis là, on n'a pas le temps d'aller dans tous les détails, mais pour faire les grandes lignes, c'est Radio-Canada qui nous en parle. Encore le merveilleux Thomas Gerbet qui est... possiblement le meilleur journaliste du Québec, je vais le dire. On nous dit que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, blablabla, a ouvert une enquête sur 5 garages spécialisés dans la désactivation illégale du système anti-pollution des camions. L'affaire, c'est qu'il y a des documents obtenus par Radio-Canada qui montrent que ça faisait au moins 4 ans que le gouvernement était au courant de cette problématique-là. Puis il y a des gens du milieu qui, depuis des années, se battaient par rapport à cette problématique-là. Là, ce que nous dit Radio-Canada, c'est que c'est là qu'on agit, mais pourquoi le timing est particulier? C'est parce que quelques semaines, une enquête de Radio-Canada révélait que des dizaines de milliers de camionnettes et de camions circulent sur les routes avec un système anti-pollution désactivé par des garages délinquants. Mais ça fait des années que le problème existe. Mais là, à partir du moment où ça sort dans les médias, puis que Radio-Canada fait un beau reportage là-dessus, ben c'est là que wow, il faudrait peut-être agir. Hein? Puis c'est un peu ce que mentionne un intervenant, c'est Claude Daigneault. Jean-Claude Daigneault, pardon, qui est président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec. Lui, ça fait 2 ans qu'il dit aux autorités « Hey, cette fraude-là, ça n'a pas de bon sens,
ben
faut
oui,
agir.
Oui. »
Puis il dit « Je suis étonné que ça ait pris autant de temps. » Puis ce qu'il déplore, c'est ça, c'est que ça a pris l'émission Enquête pour venir expliquer ce qui se passe. Non, c'est ça. Que quand ça sort dans les médias, étrangement, ça a tendance à bouger plus vite des fois.
Mm-hmm.
Catherine Bachand, un gros merci.
Merci à toi, Max.
Au retour de la pause, Audrey Pinchot est là pour l'Open Mic. Vous écoutez Le Point de Max.
Le Point de Max.
Ok, oui, 11h, ben pile. Bienvenue ou re-bienvenue dans Le Point de Max à Boulevard. C'est 13 degrés à Québec actuellement. On attend possiblement de la pluie, si c'est pas même des orages dans les prochaines heures, mais ce sera un petit peu le prix à payer pour les 3 méchantes belles journées qui s'en viennent. Demain mardi, 23 degrés généralement ensoleillés. Mercredi, 26 degrés plein soleil. Jeudi, copier-coller, 26 degrés, gros soleil. Audrey Pinchot, on est en juin, puis ça paraît, Simonac.
Ça va faire du bien, mais tu dis ça paraît, il était temps, là.
Ben, c'est ça. Ben, c'est la première journée du mois de juin, fait que mois de mai, ça a été un peu boboche.
Mais tu vois, samedi, j'ai senti l'effet de l'été.
Oui.
Ça dépend ce que...
Ben, c'était frisqué. Ben, en tout cas,
oui,
moi,
c'était frisqué.
J'étais à Montréal, là, puis le petit vent rendait ça quand même frisqué.
Mais tu vois, nous, samedi après-midi, on est allés avec des amis. On a sorti le poêle portable, mettons, là, de camping. Là. Puis on est allés, je connaissais pas le spot pantoute. C'est un spot près de la rivière Jacques-Cartier. Puis c'est vraiment, t'es sur le bord de l'eau, petite plage. Puis on est allés passer l'après-midi là jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à à peu près 8h30 le soir, mettons. Puis tu sais, j'avais une petite laine, mais l'effet de soleil qui se couche, le soleil qui te plombe d'en face, le temps avec les amis, le petit barbecue extérieur, le petit pique-nique, il y avait comme, je sais pas, ça a été un bel avant-goût, mettons, pour l'été qui s'en vient. Puis il était temps que cet été-là arrive, parce qu'on est en juin. Là.
J'ai tellement eu un beau week-end, au point où, tu sais, quand le week-end finit, puis... T'as tellement fait d'affaires que tu te dis, voyons, c'était-tu un week-end de 4 jours?
Même feeling
puis
que toi.
En fait, c'est surtout la journée de samedi. Ma journée de samedi, là, parce que tu sais, vendredi, je suis allé voir le match canadien au Centre Vidéotron.
Ouais.
C'est le premier match que j'ai pas fini des séries.
Ah, oh, je suis à la même place que toi.
Après deux périodes, j'ai fait, hey, pour vrai, là, je m'en vais chez nous. Tout le monde était de mauvaise humeur, puis on était débinés.
Rendu là.
Puis c'est ça, fait que je suis parti chez nous, puis j'ai vu les dernières minutes juste pour voir la poignée de main puis tout de chez nous. Mais ça, samedi, j'allais à Montréal voir le show de Luke Combs.
C'était-tu bon?
C'était incroyable.
Hey, je connais tellement de monde qui sont allés.
Honnêtement,
j'ai eu le FOMO, là.
Puis on a été champ. Puis moi, j'ai décidé vraiment de dernière minute d'y aller justement parce que le FOMO commençait à me pogner, fait que je me suis dit, OK, on va y aller. Puis là, on a été chanceux parce que vendredi, il a mouillé à Sio, il a fallu qu'ils annulent les premières parties, puis ils ont juste fait le Dierks Bentley puis Luke Combs plus tôt.
Comme 18h.
Fait que, mais samedi, on a tellement une belle journée. Mais moi, quand je suis arrivé à Montréal, petite marche, défilé / rassemblement de la victoire, ben, du championnat de la victoire de Montréal, j'ai tellement aimé l'ambiance. C'était tellement beau, super familial. Plein de filles qui trippaient hockey. Puis tu sais, à un moment donné, une fille en avant de moi d'à peu près, je sais pas, 20 ans, qui réussit à faire passer sa casquette par-dessus la clôture pour qu'elle se fasse signer par, je crois que c'était Laura Stacey. Puis là, la casquette, elle revient, puis elle se met à pleurer, elle se met à genoux à terre. J'ai tellement trouvé ça beau,
oh,
là.
Voyons donc!
J'étais émotif, c'était beau à voir Marie-Philippe Poulin qui est acclamée comme elle mérite de l'être.
C'est
hot. Je tombe en amour avec le hockey féminin, Simonac.
Ben, il était temps!
Non, mais pour vrai, j'ai toujours dit que le hockey féminin n'était pas nécessairement fait pour moi, puis ça, je vais maintenir le point dans le sens où je pense que c'est correct, mais... Je suis tellement content que cette ligue-là fonctionne, puis on peut juste souhaiter du succès. Quand je voyais le bonheur que ça apportait au monde sur place, là...
As-tu dormi à Montréal samedi soir?
J'ai fini par... Je m'étais apporté 0 sac, rien. Je m'étais apporté brosse à dents déo dans mes poches d'une veste de jeans. Je voyageais... Tu pouvais pas voyager plus léger que ça, là. Ça se pouvait pas. Parce que je savais pas où j'allais dormir après le show de Luke Combs. Mais l'option que j'avais la plus logique, c'était de prendre un Uber après du métro Longueuil vers Sainte-Julie, aller dormir chez un de mes anciens colocs. Puis c'est ça que j'ai fini par faire.
Bon.
Fait que j'ai passé l'après-midi à Montréal, petite bière, tout ça, de terrasse. En fait, c'est même pas vrai, j'ai même pas réussi à trouver de terrasse. Tout était plein à cause du maudit soccer.
Le maudit soccer.
J'étais pas capable de me trouver une place où aller prendre une bière à cause du soccer. J'étais tout seul, là. Tout était plein.
C'est long, hein? Incroyable. Mais moi, je trouve ça beau, je trouve ça hot.
Ben oui, c'était vraiment cool. Puis après ça, c'est ça. On s'est dit que j'ai au Parc Jean Drapeau où on a pu rencontrer Luke Combs et Dierks Bentley, prendre des belles photos. Puis c'est bien le fun.
Tu as tout le gros sourire. Ben, je suis vraiment contente pour toi. Ça a été plus relaxant, j'imagine.
Ouais, ben ça a été retour à Québec et rien faire.
Vous autres, votre fin de semaine, 88-971-1021, texto. Là, malheureusement, c'est lundi, retour au travail. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler du milieu du travail dans l'Open Mic, Max.
À Boulevard, il y a un moment.
Max, question pour toi.
Réponse, peut-être, on espère.
Te sens-tu seul au travail?
Avant, dans le point de max, entre 10 et 11 heures, ça m'arrivait de me sentir seul. Mais maintenant que je suis toujours bien accompagné, non, ça va bien. Puis moi, je jase beaucoup avec le monde autour. Puis je pense qu'on est dans une. Chez Leclerc Communication, on a une belle ambiance de travail où je pense que c'est dur de se sentir seul.
C'est très familial. C'est vrai qu'on est quand même chanceux. Il y a un sujet que je ne pensais pas aborder avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, c'est la solitude chez les jeunes au travail. Ce serait 45 % max des jeunes travailleurs qui se sentent seuls, isolés au travail, selon l'Association américaine de psychologie. C'est un chiffre qui date de 2024, mais quand même, c'est une réalité qui pourrait se développer, en fait, en ce moment. Puis la question qu'on se pose, est-ce qu'on doit aider les jeunes à se faire des amis au travail, à socialiser au travail, ou c'est censé se faire un peu par soi-même? Annie Boilard, bon matin.
Bonjour Audrey, bonjour Maxime.
J'ai pas le choix de te dire qu'on dirait que ça me surprend, parce que personnellement, chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre ici dans la gang, j'ai comme l'impression qu'on se fait un devoir de l'intégrer, tu sais, qu'on se fait un devoir d'y faire une place, puis de que cette personne-là se sente chez elle assez rapidement, merci. C'est sûr qu'on est dans un domaine assez social aussi, mais à quel point les jeunes se sentent seuls pour vrai?
Oui, je suis bien contente pour vous deux que vous ne vous sentiez jamais seul au travail, mais c'est pas la majorité des gens. En fait, comme tu le disais, 45 % des jeunes travailleurs vivent cet isolement. Puis, il faut bien comprendre que ça les attriste. Des fois, des gens disent « Ah, mais tu n'as pas besoin d'avoir des amis au boulot. » Certes, là, si ça leur convient, mais les jeunes dans les sondages, ils disent que ils sont peinés par cette situation-là. Eux, ils souhaiteraient avoir des relations plus significatives au travail. Puis ça, là, je vous dirais, c'est surprenant, vous disiez, vous, c'est moins votre réalité, puis je comprends, vous êtes dans un monde plus médiatique, plus relations humaines, mais à travers le monde, ça revient dans tous les sondages. Moi, j'ai lu des études sur ça en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, ça revient que les jeunes se sentent seuls. Quand on se demande pourquoi,
oui,
là, il y a un peu moins d'unanimité, c'est ça, hein? Pourquoi ils vivent cette solitude? Différents auteurs, différentes thèses, mais je vous lance quelques pistes. Il y a des chercheurs qui pointent vers la COVID. Il y a des chercheurs qui disent que ça pourrait être lié à une mécompréhension des relations que les autres entretiennent au travail. Une espèce d'enjolivement des relations professionnelles des collègues, tant en quantité qu'en qualité. Donc, une vision Walt Disney des relations interpersonnelles des autres. Il y a des auteurs comme Jonathan Haidt, que moi j'apprécie particulièrement, qui lui pointent vers le fait que cette génération a eu accès aux réseaux sociaux très tôt dans leur vie, ce qui a fait qu'ils ont développé des super habiletés pour créer des réseaux numériques virtuels, mais moins d'habiletés pour développer des relations interpersonnelles, et c'est ce qui expliquerait cette réalité.
Mais ça fait du sens en même temps, là.
Oui, c'est vrai que ça a du sens quand on regarde ça comme ça. Puis, tu sais, pour nous, en ressources humaines, là, une des raisons pour laquelle ça nous interpelle, c'est que les relations interpersonnelles, on sait que c'est la nourriture pour ce qu'on appelle le support par les pairs. Puis le support par les pairs, c'est important parce que c'est un facteur de protection contre les risques psychosociaux. Là, je suis un peu technique, mais en simple, là, c'est important. Il faut s'intéresser à cette question-là.
Puis à la base, un point intéressant, je trouve, c'est qu'il y a aussi deux visions complètement différentes des collègues. Il y en a pour qui un collègue, ça va toujours être un collègue, puis ça ne sera jamais un ami. Alors que pour d'autres, ben un collègue peut super bien devenir un ami, même si je vais encore plus loin. T'sais, moi, quand je suis arrivé à Québec il y a maintenant à peu près 5 ans, là, ben j'avais personne à Québec. Fait que mes collègues, par la force des choses, ben c'est sûr que ça allait devenir mes amis, sinon on ne m'en serait pas fait ben des amis. Puis veux pas, j'étais tout le temps à job. En plus, c'était dans la période de la COVID, fait que je pouvais pas sortir. Ben naturellement, c'est clair que mes collègues sont devenus mes meilleurs amis à Québec, là.
Ben oui. Puis c'est intéressant ce que tu amènes comme nuance, Maxime, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des amis au travail, il y a des gens qui veulent jamais être amis avec leurs collègues, pour eux, ils veulent garder une vie professionnelle. Mais quand on parle de l'isolement des jeunes, c'est pas le fait d'avoir des amis, c'est pas ça qu'ils cherchent ça, nécessairement comme ton exemple à toi, Maxime. C'est vraiment juste le fait d'être capable de nouer des relations significatives. C'est le fait d'arriver le matin, d'être capable de parler avec quelqu'un que je connais moins, d'être capable d'être vulnérable, de parler de moi, mais pas trop, parce qu'on est dans un contexte professionnel, de tisser une relation de confiance, de créer une relation significative qui va faire que, parce qu'on va se le dire, ami ou pas ami, là, peu importe l'étiquette qu'on lui apporte, c'est souvent ces relations qui font qu'on a envie de rentrer le lundi matin. Là.
Oui.
C'est comment ça a été à sa date, on veut savoir. C'est souvent ça qui s'est passé. Alors, c'est pour ça que ça vient créer une confiance, ça donne du sens, ça nourrit la loyauté envers l'employeur. C'est très important, cette notion-là d'appartenance.
On travaille. En même temps, je me suis toujours demandé la limite était où. Parce que longtemps, moi, je me suis fait dire ça, là, tu sais, faut que tu gardes une barrière entre ton professionnel et ton personnel. Et pourtant, malgré moi, et même, je vais appeler ça problème que Max, mais moi, quand je suis arrivée il y a un peu plus que 7 ans maintenant, j'en avais pas non plus de connaissances à Québec. Fait que rapidement, les liens que j'ai créés au travail sont devenus ces amis-là, ces connaissances-là. Puis je trouve que c'est positif.
Même avec les patrons, des fois.
Ben oui, absolument.
Ça, des fois, on dit de garder à distance. Pis...
Mais c'est ça. Et où la limite? Parce qu'en même temps, ça devient difficile. Tu sais, moi, si demain matin, je sais pas, j'ai des problèmes tout d'un coup avec mon employeur ou je veux plus travailler à Boulevard ou peu importe ce qui se passe, ben il y a pas juste le deuil de mon emploi, il y a le deuil de mon cercle social. Mmh.
Et mais ça, l'employeur aime ça, entendre ça. Hein? Vous savez, ça nourrit la fidélisation, c'est l'engagement. Sûr. C'est exactement ça que l'employeur veut créer. Mais je trouve intéressant parce que dans vos deux histoires, il y a quelque chose en commun, la notion de temps. Tout ça, ça s'est passé il y a quelques années. Est-ce que vous me permettez d'amener la conversation vers l'impact des technologies et de l'intelligence artificielle sur la réalité des jeunes 2026?
Oui, oui.
Ça fait des nuances. Là, je vais vous amener sur un drôle de terrain. Je vais vous parler de ce qu'on appelle en anglais des « companion AI ». La traduction, ça serait des robots en intelligence artificielle ou des compagnons en intelligence artificielle. Moi, je l'entends toujours en anglais. Fait qu'à votre permission, je vais garder cette appellation. Mm-hmm. Je vais prendre le temps de le définir, puis après ça, je vais vous donner des statistiques, puis vous allez comprendre pourquoi c'est si important cette conversation, je pense, humblement. Donc, d'abord, un companion AI, ce n'est pas votre ChatGPT, ce n'est pas votre Copilot, ce n'est pas votre Google, ce n'est pas non plus votre Alexia.
Fait que c'est pas okay? un outil qu'on utilise à job.
Non, c'est très relationnel cette affaire-là. Les applications les plus populaires, par exemple, c'est Caractère IA, pour se donner un exemple. Alors, c'est vraiment des applications qui sont faites pour développer une relation émotive entre un IA puis l'ordinateur, puis un humain. Ce que je veux dire, c'est que la job de votre companion AI, c'est de vous garder en ligne le plus longtemps possible. C'est ça qu'il va essayer de faire. Fait qu'en opposition, si vous demandez une question à votre ChatGPT, sa job, c'est de vous donner une réponse. Là, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je vous donne un exemple. Disons que je reviens du boulot ce soir, puis que je rentre chez moi, je salue avec ma voix mon companion AI. Je pourrais le faire avec un chat, mais ça revient à la même chose. Et que je lui dis « Ouf, dure journée aujourd'hui ». Mon robot conversationnel pourrait me dire quelque chose du type « Ah oui, Annie, dure journée aujourd'hui ». Dis-moi, c'est-tu parce que ton patron t'en demande trop ou tes collègues ne te supportent pas suffisamment?
Mmh.
Vous voyez, mon companion et elle vont me garder dans la conversation, là. Ça va être très émotif. Je reviens.
Ça on amène un biais aussi, je trouve, là. T'sais, si ben, ça oui. t'amène un certain biais de tes collègues ne te supportent pas assez, c'est sûr que là, t'es dans solitude, en tabarnouche. Là. Tu parles avec un robot, puis il te suggère que l'humain n'est pas assez présent, là.
Ben oui, puis c'est sûr, le robot conversationnel va toujours vouloir te conserver dans la conversation. Tu vas toujours avoir raison. Je vous le dis tout de suite, vous êtes toujours beau, fin, grand, gentil. Vous avez toujours raison avec votre robot conversationnel. Mais je reviens. Tantôt, vous parliez de l'importance du travail pour nouer des relations quand vous êtes arrivé à Québec à l'époque. Aujourd'hui, en 2026, je vous partage 4 statistiques qui viennent de l'Association américaine des psychologues. Puis les auteurs de ce que je vais vous dire, c'est Golden and Woods. Regardez bien, présentement aux États-Unis, 72 % des adolescents ont déjà essayé un robot conversationnel, un companion AI.
C'est énorme, hein?
Ça va juste monter.
Oui. 52 % des adolescents américains l'utilisent en continu. Ça veut dire au moins une fois par semaine.
OK.
Toujours selon les mêmes auteurs, environ un homme sur trois de 30 ans et moins a déjà eu une relation amoureuse avec un companion AI et une femme sur quatre du même groupe d'âge.
C'est beaucoup.
Oui.
Hey, ça me rend mal à l'aise, moi, on dirait ça. Parce que je me considère pas, vieille pantoute, là. Je veux dire, je m'en vais vers la trentaine. Je suis pas si déconnectée des réseaux sociaux et compagnie. Puis jamais dans 100 ans, j'ai pensé me lier d'amitié ou d'amour avec un compagnon d'intelligence artificielle.
Moi, amour, je commence à y penser, mais ça, c'est une histoire pour un autre moment.
Mais c'est ça, et c'est pour ça que ça nous interpelle, parce qu'il va de soi, parce qu'on le voit tous, là, que si c'est ainsi que les gens développent leurs relations, bien, développer des habiletés pour interagir avec des humains en chair et en os, ça va encore plus s'effriter. Mm. Là, je vais vous dire, par transparence intellectuelle, il y a de la traduction libre dans ce que je vous ai dit tantôt. Comme par exemple, dans la littérature anglophone, ça dit des relations romantiques. Moi, j'ai traduit par des relations amoureuses. Mm-hmm. Mais je pense qu'on comprend l'esprit.
On est dans le même, oui, oui, absolument.
Dans ce qu'on est en train de se dire. Fait que c'est pour ça que c'est préoccupant. Fait que nos jeunes qui se sentent seuls aujourd'hui risquent de se sentir encore plus seuls plus tard. Et comme vous disiez, c'est important le sentiment là, de faire partie de la gang. On veut que les gens soient bien au travail. Fait que ça nous interpelle beaucoup.
Mais comment on peut soutenir, je veux dire, les jeunes travailleurs là-dedans qui se sentent seuls? Parce que c'est dur à comprendre pour, mettons, des patrons d'une autre génération. Là. Je veux dire, Annie, j'ai 29 ans, puis moi, dans ma tête, tu me dis ça, puis je suis comme, voyons, mais lâche-le ton sel, puis parle à du monde. Là. C'est de même que tu vas créer des liens, tu sais.
Oui, mais toi, tu viens du monde des communications, c'est peut-être plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour aider nos jeunes? Tantôt, vous avez posé la question un peu cocasse d'entrée de jeu, on va-tu leur donner un petit cours sur comment se faire des amis au boulot? Puis évidemment que la réponse, c'est non, tu sais, ça serait infantilisant, condescendant, c'est pas là que ça va aller. Moi, je pense que pour soutenir nos jeunes travailleurs, ça va passer par donner l'exemple. C'est par mimétisme qu'ils vont l'apprendre. En regardant des professionnels, des gens comme vous, là, tu sais, Audrey, tu dis, ben voyons, tu sais, ça se fait tout seul, se faire des amis au boulot. Des gens qui comprennent comment on fait cette stratégie, des fois, ils réalisent même pas là, que savoir faire ça, c'est une compétence. Mmh. C'est une compétence qui a un prix pour les entreprises, qui est enviée par d'autres générations. Puis juste rendre les comportements un peu plus évidents. Tu sais, des fois, c'est d'être un petit peu plus manifeste sur certaines stratégies. Puis aussi d'en prendre conscience. Nous, dans le développement des compétences en ressources humaines, on a un terme technique qui dit des experts inconscients. Ça, c'est des gens qui savent même plus comment ils font pour faire des choses. Pour nos auditeurs, on pourrait dire conduire une voiture. Tous nos auditeurs qui conduisent leur voiture, là, on se rend plus compte que comment ça... C'est instinctif, c'est ça. Même chose pour nouer des relations significatives au travail. Parce que je reviens au point de Maxime tantôt, on dit pas se faire des amis, on est juste dans cette mécanique de créer une relation significative, de parler de soi, d'être disponible pour l'autre. C'est ça qu'on est en train de parler. Donc moi, je pense que à ceux qui détiennent cette compétence, donc les Audrey et les Maximes de ce monde, aider les autres, parfois en... prenant conscience de ce que vous faites, des fois en expliquant la stratégie qu'il y a derrière pour que les gens puissent apprendre de cette compétence. Puis moi, je pense que c'est vraiment ici qu'on va être capable de défaire cette réalité, cette problématique qu'on a au niveau de l'isolement de nos jeunes travailleurs.
Mmh. Annie, avant de te laisser parler, je trouve ça super intéressant ce sujet-là. Avant de te laisser partir plus tôt, il y a...
Je trouvais que t'as abaillonné pas mal. Là,
avant de te laisser parler.
Je te trouvais impoli.
Avant de te laisser partir. Il y a un sujet que tu m'as envoyé il y a peut-être une semaine, deux semaines, que je trouvais quand même intéressant. Puis j'ai une question qui me trotte en tête depuis. On parle de la perception des salariés envers leurs employeurs. C'est des résultats d'un sondage léger qui porte sur ce sujet-là. Puis il y a des chiffres quand même préoccupants. Un travailleur sur quatre qui veut quitter son emploi dans la prochaine année. 40 % des travailleurs qui ne recommandent pas leur employeur à un ami. Puis la question que je me pose, c'est pourquoi tu gardes une job que tu ne recommandes pas?
Parce que tu as plein d'amis au travail.
Bon, bien.
Alors, c'est une excellente question, Audrey. Il y a plusieurs raisons. Puis là, nous, on est à Québec, là. Donc, c'est sûr que le taux de chômage est plus bas, puis on a les plus grands points d'interrogation quand on regarde ça. Il faut garder en tête qu'au Québec, c'est pas partout la même chose. Il y a des endroits où c'est difficile de trouver un boulot. Il y a aussi plein de réalités. Il y a de la compétition sur le monde du travail. C'est pas toujours facile de changer. Puis vous aussi considérez, tu dis, Audrey, d'un côté, les gens sont un peu drôles de rester dans un travail qui leur déplaît. Mais d'un autre côté, prenons le temps de mettre la loupe sur la question. Tu sais, par exemple, les gens qui voudraient quitter leur emploi. C'est 27 % là, les gens qui disent « oui, je considère changer d'emploi dans la prochaine année ». Tu sais, le verbe « considérer », quand on le met la loupe dessus, C'est assez facile à atteindre ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des gens qui sont nécessairement insatisfaits de leur travail. Tu sais, moi, si vous me posez la question, je considère faire bien des affaires cet été-là. Vais-je tout faire ce que je prévois faire? C'est une toute autre question. Mais considérer,
C'est, je
c'est
pourrais-tu y
un.
penser?
C'est ça, c'est souhaiter, songer, y penser. Alors, on peut penser à bien des choses. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a de la frustration, il y a de la souffrance dans le monde du travail. Beaucoup des employés qui regardent les gestionnaires et qui parfois ne comprennent pas ce qui se passe. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se laisser prendre au jeu des statistiques. Il y a aussi des gens qui sont bien dans leur travail, puis ça peut expliquer pourquoi on ne voit pas tant de déplacements que ça entre les ressources.
Mais qu'est-ce qu'on reproche au patron? C'est pourquoi les employés sont si insatisfaits, là? Bon, évidemment, c'est un chiffre qui est peut-être gonflé, là.
Bon, il y a plein de choses. Dans les grands classiques, là, des enjeux de communication. Ce que les gens disent, c'est on ne sait pas ce qui s'en vient, on apprend les affaires à la dernière minute, et on ne comprend pas. Alors, des enjeux de communication. Là, tantôt, je disais, on est à Québec, mais Maxime parlait de Montréal tantôt. Je pense qu'on a tous déjà pris un métro dans notre vie, là. Pour moi, ce que j'imagine dans ma tête, c'est comme les employés sont dans un métro, puis vous savez, dans un métro, on apprend la station. Quand on est rendu, ils vont nous dire telle prochaine station. Ben, c'est comme s'ils travaillent, puis là, ils ont l'information qui rentre au fur et à mesure qu'ils arrivent dans la station. Puis ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que les employés ont besoin d'autonomie pour être bien dans leur travail. Tantôt, Audrey, tu parlais d'affiliation, c'est notre mot technique pour dire se sentir dans la gang. Ils ont besoin d'autonomie. C'est plusieurs critères comme ceux-là, mais ça fait partie des critères clés, ça. Mais pour avoir de l'autonomie, il faut que tu aies de la prévisibilité, il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Tu ne peux pas faire ça au fur et à mesure, puis apprendre la station, apprendre les informations quand tu es rendu. Alors, ça, des enjeux de com, ça revient souvent. Après ça, il y a toutes des enjeux au niveau de la déconnexion des patrons. Hein, des gens qui disent les boss, ils gèrent comme s'ils étaient dans une tour d'ivoire, comprennent pas ce qu'on fait. Puis ça, c'est frustrant parce que les employés se disent ben ouais, mais je suis pas important, moi. Pourquoi le boss, il descend pas de sa tour d'ivoire, de sa tour de contrôle pour venir voir ce que je fais? Puis comme ça, ben, les changements, les décisions vont être plus logiques par rapport à notre responsabilité. Fait que c'est vrai que c'est frustrant. D'un autre côté, des fois, les patrons ont à provoquer des changements qui sont difficiles à opérer sur le terrain. C'est pas parce qu'ils comprennent pas ou qu'elles comprennent pas, c'est juste parce que ce changement-là passe par un tournant difficile. Donc, des fois, c'est une mécompréhension entre les parties.
Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, toujours un plaisir. Où est-ce qu'on peut te rejoindre ou te suivre?
Ah, ben, réseau. Réseau, excusez-moi, réseau Annie RH sur le web, on me retrouve facilement. Merci, Maxime, de poser la question.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Prochaine.
Salut,
salut Annie.
Annie. Audrey, as-tu vu la grosse nouvelle qui retient toute l'attention dans la dernière
tu
heure?
Tu vas me parler de Gallagher.
Brendan Gallagher qui a pas mal confirmé qu'on ne le reverrait pas à Montréal et a craqué, a dû quitter le scrum devant les journalistes pendant quelques secondes. J'ai un petit extrait. Tantôt, j'avais les larmes aux yeux, là. Brendan Gallagher, je veux dire, c'est ma jeunesse, c'est la eggline avec Galchenyuk puis Lars Eller, c'est un guerrier à Montréal, c'est un modèle.
C'est un idole.
Fait que je vous laisse entendre comment ça a sonné.
There's been ups and downs, but I don't have a single regret, so it's pretty clear. I'll be kind of moving on here, but you know, incredibly, incredibly.
Oh mon Dieu.
Sorry. Jeez. No, I'm just, I'm very fortunate. No, I just, I had a thought about my mom. I was just thinking about how the teammates supported me through that and. Oh, God. Sorry. I still get emotional talking about her, but, you know, that's just something that always will stick with me. Just give me a second here, guys.
Donc, Brendan Gallagher qui dit, ça semble assez clair que c'est la fin pour moi ici, qu'on va move on vers quelque chose d'autre. Puis là, il craque. Puis là, il y a une journaliste qui demande, qu'est-ce qui t'a. Oui, exact. Puis il dit, ben, j'ai pensé à ma mère, sa mère qui est décédée du cancer. C'était l'an passé, il y a 2 ans de mémoire, là. Puis Brendan Gallagher qui dit, j'ai pensé à ma mère, puis à comment les gars, comment mes coéquipiers m'ont supporté dans cette épreuve-là.
Tu dois tisser des solides liens, là.
Ben, Brendan Gallagher, là, il est à Montréal depuis. Il était repêché à Montréal en 2010, a commencé à jouer dans la Ligue nationale avec les Canadiens en 2012. Ça fait, capoté, ça fait 14 ans que Brendan Gallagher fait partie du Canadien.
C'est sa famille, là.
Que, puis, il a le fait que ça fasse longtemps, mais il a le fait aussi que ça doit être tough de plus suivre. Mm. Tu sais, de passer d'être un morceau important, d'être le cœur de cette équipe-là à « Hey, Brendan, tu joueras pas en série. Mm. » Il a joué 3 games dans le run de série qu'on vient de faire. Ça
t'es
doit être tough, là.
T'es plus la saveur du moment, t'es plus... Non, ça doit être excessivement
difficile. Puis surtout pour un Brendan Gallagher, qui est un guerrier, qui lui, ça doit lui faire mal de pas pouvoir aider, parce que lui, ben, il y a deux... Soit il sent justement qu'il est plus capable, mais il y a une partie de lui qui doit se dire « Colin, me semble j'apporterai quelque chose, tu sais, contre les Hurricanes. »
Mais c'est
là,
parce que ton cœur y est, mais à un moment donné, c'est le corps aussi, là.
Exact, puis Dieu sait que Brendan Gallagher, son corps a été magané, là. Il a tout donné pour le Canadien de Montréal. Là, on semble comprendre que Brendan Gallagher veut poursuivre sa carrière professionnelle. Où est-ce que ça va se faire? Dans quelle modalité? Est-ce que le Canadien va racheter son contrat? Est-ce qu'on va l'échanger en donnant un choix au repêchage, en retour qu'une équipe prenne son contrat? Ce sera à suivre, mais dans tous les cas, là, ça fait 3-4 fois que j'entends l'extrait, puis à toutes les fois, le mot tombe pas un petit peu, là. Brendan Gallagher qui a vraisemblablement disputé son dernier match à Montréal. Audrey Pinchot, on t'écoute dès 14h dans le retour.
Absolument.
Au retour, Nathan Meilleur pour sa chronique du jour et les nouvelles avec Mathias Turcotte.
Le point Max. Le point.
11h33 minutes dans le point de Max à Boulevard 102. J'espère que vous passez un merveilleux lundi sous le soleil. Ça va être une belle semaine. Je vais vous dire une affaire. Je vous en passe un papier. Cet après-midi, peut-être un peu de pluie, là, mais à part ça, pour les journées de mardi, mercredi, jeudi, OK? Suivez-moi. Demain mardi, 23 degrés, généralement ensoleillé. Mercredi et jeudi, des journées copier-coller à 26 degrés, gros soleil, mesdames et messieurs. Fait qu'on va en profiter avant le retour des nuages et peut-être de la pluie pour ce qui est de vendredi et samedi. Sur la route, tout semble beau. S'il y a quoi que ça... c'est pas vrai, ça. L'accès aux pompiers à la porte, direction nord, il y a un accident qui semble causer un bon ralentissement. Fait que si vous avez plus de détails, le 418-971-1021, mais pour l'accès à la porte nord, accident qui cause un ralentissement. Avant de passer aux nouvelles de Mathias Turcotte, là, c'est drôle parce que comment c'est écrit, il faudrait que je vous dise. Vous le savez, Max Larouche est parfois un vrai spécialiste pour créer des malaises. Mais c'est moi, Max Larouche.
Fait que là, tu viens d'en créer un bon.
Fait que vous le savez, la gang, hein, des fois, je suis pas pire pour créer des malaises puis des frettes en studio. On a juste à penser à mes remakes de chants. Qui a fait ça? C'est bien méchant. C'est vrai? Non, attends, là.
Ils ont-ils engagé Yannick Marceau pour écrire ça?
Mais tu sais, je suis capable de faire des frettes, mais là, de mettre mes tunes là-dedans, c'est pas cool, là. Avec ça.
C'est pas cool. Ah! Elle était déjà prête.
Petit Cocofield, you guys, Slavkovski. C'est pas vrai, j'avais dit que je la faisais plus jouer. Fait que c'est ça. Tout ça pour vous dire que pour une fois, grâce à Enviro Confort, mes frettes pourraient vous rafraîchir cet été. Toute la semaine, restez à l'écoute de Boulevard 101 pour découvrir le froid du jour créé par Max et allez l'inscrire au blvd.fm. Et le 5 juin, il y a une personne chanceuse qui va gagner une thermopompe Lennox 12 000 BTU livrée, installée, serait propulsée par Samsung pour passer l'été au frais sans avoir besoin des frettes de moi-même. Chaque jour, un froid différent est présenté, fait que plus vous nous écoutez, plus vous augmentez vos chances de gagner. Enviro Confort, c'est plus de 25 ans d'expérience en chauffage, climatisation, thermopompe, ventilation et géothermie à Québec et à Lévis. Pour tous vos besoins, on vous invite à vous rendre au enviroconfort.com. On va s'ennuyer pareil, hein, Mathias?
Des Canadiens en série ou de tes chansons?
De ma toune. J'ai failli en faire une pour l'élimination du Canadien.
Ah non, là, c'est... My God! En plus d'être triste de l'élimination du Canadien, on aurait eu à avoir une nouvelle toune de Max Larouche.
Oui, absolument.
J'ai entendu dire que ça aide pas à la tristesse ou à la dépression.
Oui, ben là, surtout que ce matin, on est triste parce que Brendan Gallagher a annoncé qu'il avait joué son dernier match avec le Canadien. On en reparle dans les prochaines minutes parce que le Mathias, faut faire un tour des nouvelles. Puis il y a quand même un gros dossier là, qui est sorti dans la dernière heure.
Oui, le ministère public qui riposte à la décision de la Cour d'appel. Je vous ramène, il y a de ça quelques mois, la Cour d'appel invalidait le verdict de culpabilité de Carl Giroir, le fameux lui qui est derrière la fameuse attaque au sabre dans le Vieux-Québec, cette sanglante soirée-là, qui avait été reconnu coupable, puis là, on venait invalider le verdict. Ce qu'on disait, c'est que la juge n'avait pas donné de directive assez claire au jury concernant le silence de Carl Girouard lors de son interrogation policière. Mm. Puis là, je tiens à dire, c'est vraiment juste ça. C'est cette partie-là du procès qui a fait en sorte qu'on a invalidé le tout. C'est donc le procureur du nouveau procès qui a déposé la demande d'autorisation à la Cour suprême pour justement remettre en place ce verdict. Donc, on a envoyé la demande à la Cour suprême. La Cour suprême va analyser le dossier puis va décider si oui ou non on maintient le verdict ou pas. Donc, ça s'en va dans la Cour supérieure, la Cour suprême. Bon, donc le second procès qui est comme mis sur pause, on ne sait pas encore s'il va avoir lieu ou pas. Tout ça va dépendre de la fameuse décision de la Cour suprême sur si on maintient la décision de retirer le verdict de culpabilité ou si on dit non, cette décision-là n'était pas la bonne, puis on remet le verdict de culpabilité.
On tombe un peu en mode attente.
Exactement. Un nouveau sondage léger réalisé pour le compte de l'Association du transport urbain du Québec a été révélé ce matin. Et le niveau de congestion s'est détérioré au cours des trois dernières années dans la région de Québec, selon le deux tiers des résidents. Même la majorité pense que le transport collectif peut aider à améliorer la congestion. Ce que révèlent les chiffres, c'est 78% des répondants estiment que le transport collectif rend une région plus attirante. 69% jugent que le transport collectif permet de réduire la congestion. Et 70% des citoyens pensent qu'un bon accès au transport collectif permet de mieux faire face aux coûts de la vie. Donc, une grosse majorité des gens de la région de Québec. Je vous rappelle qu'une grosse majorité des gens de la région de Québec ne veulent pas de tramway également.
Ouais. Puis là, il y en a qui vont dire que c'est une raison de coût, puis que c'est pas le bon projet, puis qu'on devrait avoir un SRB, mais là, on repartirait dans les mêmes débats qu'il
y a
10 ans.
Mais il y a quand même une petite contradiction, mettons, dans les chiffres tant qu'à...
Dans un certain sens, t'as pas tort.
Le principal employeur de Saint-Michel-des-Saints, en fait, la Syrie Saint-Michel, est endetté de 38 millions de dollars. Et elle s'est mise sous la protection de ses créanciers. C'est Radio-Canada qui a mis la main sur ces documents-là. C'est une mauvaise nouvelle là, pour le village du côté de la Naudière, qui a 2500 habitants. Que presque toutes les familles, il y a au moins une personne qui travaille au sein de cette Syrie-là. La Syrie qui avait fermé ses activités d'août 2025 jusqu'à janvier 2026 en raison des tarifs de Donald Trump. On disait que c'était 60% de sa production qui était exportée. On a environ une liste de 200 créanciers selon les documents de Radio-Canada. Donc, ça leur permet justement de se mettre sous la protection de quelconque poursuite que ces créanciers-là pourraient avoir contre eux. Le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, a annoncé aujourd'hui une enquête sur le service de police de la ville de Longueuil. Je vous ramène en septembre 2025, une adolescente de 15 ans. On parle de Noran Rezaï, qui avait été mortellement atteinte par une balle justement d'un policier du service de police de Longueuil. Ça avait pris 90 minutes avant qu'on contacte le bureau des enquêtes indépendantes pour annoncer qu'on avait atteint quelqu'un par balle et qu'on l'avait mortellement atteint, tandis qu'on demande aux policiers de le faire le plus rapidement possible. Là, il y a comme un jeu de mots qui se fait du côté du service de police puis du côté un peu plus de la ville de Longueuil. Du côté du service de police, on dit dans un délai raisonnable, mais c'est pas nécessairement immédiatement, mais on s'entend qu'un délai de 90 minutes, ça fait non pas mal. Donc, le ministère de la Sécurité intérieure, ce qu'on va surtout se concentrer sur, c'est pourquoi ça a pris une heure et demie avant qu'on contacte le bureau des enquêtes indépendantes. Ce dossier-là qui faisait beaucoup jaser, la mairesse de Longueuil qui demandait une enquête administrative justement sur ce fameux incident-là. Donc, on va probablement en savoir plus au cours des prochains mois. Et je termine avec la guerre en Iran, États-Unis-Iran, parce que là... On semble comme avoir des signaux différents des deux côtés. La semaine dernière, on pensait être tout proche d'une entente. Là, selon les dernières informations, il y a certaines agences de presse qui annoncent que les discussions entre l'Iran et Washington ont totalement pris fin du côté de l'Iran. De son côté, Donald Trump, sur True Social, il y a de ça 10 heures, publiait que l'Iran voulait faire une entente puis que ça allait être très bon pour les États-Unis. Donc, on semble un peu tourner en rond au cours des dernières semaines. On espère y voir un peu plus clair aujourd'hui, un peu plus tard.
Merci beaucoup, Mathias. Au sport, je vous en ai glissé un mot. On l'a entendu pratiquement en direct dans la première heure du show. C'est pas mal terminé à Montréal pour Brandon Gallagher. Voici ce qu'il avait à dire, très, très, très émotif.
There's been ups and downs, but I don't have a single regret. So it's pretty clear. I'll be kind of moving on here, but incredibly. Sorry. Jeez. No, I'm just very fortunate. No, I just, I had a thought about my mom. I was just thinking about how the teammates supported me through that, and... Oh, God. Sorry. I still get emotional talking about her, but, that's just something that always will stick with me. Just give me a second here, guys.
Brandon Gallagher qui dit donc que c'est pas mal clair qu'il va move on, qu'il va passer à autre chose par rapport à sa carrière avec le Canadien de Montréal. Là, vous l'entendez éclater en sanglots, avoir de la misère à reprendre un peu ses esprits. Et on lui demande qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, puis il dit j'ai pensé à ma mère, sa mère qui est décédée du cancer, c'était l'an passé ou il y a 2 ans de mémoire là. Puis il dit mes coéquipiers ont tellement été avec moi là-dedans, puis m'ont tellement supporté là-dedans. Et donc c'est un peu ça, Brandon Gallagher qui aurait été un morceau terriblement important du Canadien, choix de 5e ronde en 2010, alors qu'il évoluait avec les Giants de Vancouver. Et évidemment, dans ce temps-là, repêcher des petits gars de 5 et 9, là, c'était pas coutume. Et Brandon Gallagher, donc, a déjoué tous les pronostics. Une première saison à Montréal en 2012-2013, une moitié de saison, du moins, où il avait bien fait, avec 28 points en 44 matchs. Ensuite de ça, ses meilleures saisons, il les a connues en 2017-2018 et 2018-2019. La première, 31 buts, 54 points en 82 matchs. La deuxième, 52 points, 33 buts. Il y a notamment eu pour Brandon Gallagher la egg line, Lars Eller, Alex Galchenyuk et Brandon Gallagher, les premières lettres de nom de famille, la egg line, qui moi personnellement m'a marqué parce que c'était comme dans le temps où je regardais beaucoup le hockey. Mais tu sais, je pense qu'on regarde tous de très bons souvenirs de Brandon Gallagher à Montréal.
On a eu Thomas Tatar, Philippe Dano et Brandon Gallagher aussi pendant un bon bout. C'est émouvant de l'entendre comme ça, puis ça fait mal de se dire que... À l'entendre parler, ça semble assez clair, malgré le fait qu'il y a un contrat avec l'équipe l'an prochain, qu'il a joué sa dernière partie avec le Canadien.
Ouais.
Ça fait encore plus mal, sachant qu'on aurait pu le mettre dans l'alignement dernier match, puis qu'il n'était pas là.
Ouais, puis tu sais, ce matin, on a eu la conversation avec Marceau qui demandait c'était-tu un manque de respect de ne pas le mettre dans l'alignement. Moi, je suis pas prêt à dire ça, puis je suis un énorme fan de Gallagher. Moi, je pense que Martin Saint-Louis a pris une décision. Pour moi, c'était la mauvaise décision. Pour moi, Brandon Gallagher, tu devais le rentrer dans l'alignement puis essayer quelque chose avec ce que Brandon Gallagher peut t'amener comme flamèche. Mais est-ce que c'est un manque de respect? Non. Un coach va toujours prendre les décisions qu'il croit être les meilleures pour gagner. Puis Brandon Gallagher, probablement qu'il aurait été dépassé complètement par la vitesse des Hurricanes. Tu aurais pu l'essayer. À savoir le résultat maintenant, est-ce qu'on l'aurait... Oui. Mais est-ce que c'est un manque de respect? Je crois pas. Je pense que Martin Saint-Louis a pris une décision hockey, qui, je le répète, pour moi, n'était pas la bonne décision. C'est pas un manque de respect pour autant.
En tout cas, une chose est sûre, Gallagher, il a parlé de peut-être Vancouver, là, qui semblait peut-être être une destination. Je sais pas s'il y a eu des discussions avec l'équipe du côté de Vancouver. Il est encore sous contrat, fait que c'est
y a-tu comme... nommé Vancouver?
Un journaliste l'a lancé sur Vancouver, puis il a dit effectivement ça pourrait être une belle place parce qu'il a joué là dans le junior.
Exact,
et tout.
Avec les Giants de Vancouver. Lui, c'est un gars d'Edmonton, puis je pense que Vancouver fait en effet du sens dans le contexte où c'est une équipe qui va se lancer dans un long processus de reconstruction. Fait que hâte de voir où va se ramasser Brandon Gallagher. Je pense qu'on lui souhaite le meilleur, puis dans tous les cas, ça va être un excellent modèle, un bon mentor pour des jeunes. Le Point Max. 11h46 dans le Point de Max à Boulevard 101. Quelques minutes à passer ensemble et on va passer ça également avec Nathan Meilleur qui a dansé avec les loups en fin de semaine.
Oh que oui! J'étais chez Loupo, sanctuaire de loups. C'est à Sainte-Apolline-de-Paton, ça.
C'est une vraie ville, ça?
Oui, une vraie ville. C'est à 1h40-45 à peu près de Québec. Sanctuaire de loups, c'est malade, là. Faut que tu vives ça une fois dans ta vie. C'est des pods qui appellent, donc des mini-chalets, mais t'as une grande fenêtre qui donne directement sur l'enclos. Fait que tu dors avec les loups.
Très cool.
Le matin, tu te réveilles, ils sont là, à genre 2 mètres de toi. C'est vraiment une belle expérience. Puis à vivre en famille, ça valait vraiment la peine.
Parlant de famille, notre sujet aujourd'hui, on est là-dedans, puis je trouvais ça intéressant de t'en parler parce que t'es comme... Je regardais, bon, à qui je pourrais en parler? Bon, tout seul, ça donnerait pas grand-chose. Audrey Pinchot non plus, Kat Bachan, peut-être, mais même... Toi, t'es direct là-dedans en ce moment. Mm-hmm. C'est dans Le Devoir ce matin qu'on nous dit « Des parents dépassés par la grammaire rénovée. Comment aider son enfant en français quand on a appris la grammaire traditionnelle? » Puis là, j'ai appris des choses que je savais même pas. Là, là on a tout changé, ça a l'air. Là, la grammaire, le format de grammaire, j'ai envie de dire, pour ce qui est des groupes de mots. Tu sais, déjà, je me souviens qu'il y a une couple d'années, dans mon temps, ça mêlait bien du monde, les fameux groupes de mots. Mais là, on nous dit qu'on est rendu avec les cinq principaux groupes. Le groupe du nom, le GN, le groupe du verbe, le groupe adjectival, le groupe prépositionnel et le groupe adverbial. Il me semble que dans mon temps, il y en avait pas mal moins que ça.
Il y avait adverbial, il me semble qu'il l'avait, c'est le précédent, l'octonomie, que ça, je suis pas certain.
Prépositionnel.
Prépositionnel,
le,
ça.
Le G prep.
Ouais. Tu sais, le... Bon, puis dis de même. Mais non, le PrEP, il n'y avait pas ça.
Et là,
quand on était jeunes, nous.
On nous parle de Dominique Fortier qui a écrit sur Facebook. « Hey, je suis la seule à trouver que la nouvelle façon d'enseigner à grammaire à grands coups de GADJ puis GFCP, qui est le groupe facultatif complément de phrase, est parfaitement incompréhensible. Ma fille est en première secondaire. J'ai accessoirement un certificat en enseignement du français au secondaire et un doc en littérature. » Puis j'y arrive juste pas. Mais c'est pas une fuck-all, là.
Non, c'est quelqu'un c'est ça.
Comment tu fais comme parent pour aider tes enfants à l'école, alors qu'un, pour toi, première des choses, fait un petit bout, là, sans vouloir te vieillir.
Ben oui.
Des choses, quand tout a changé de même.
C'est, tu sais, il y a une période quand tes enfants sont à l'école où tu es capable de rattraper le petit manque. Fait que, c'est-à-dire, mettons, tes kids arrivent à la maison avec des devoirs. Au début, tu es comme, bon, j'ai juste besoin de me rafraîchir la mémoire. Donne-moi un petit 10-15 minutes. Là, je vais replonger dans ton livre de français, ton livre de mathématiques. Souvent, ça revient. C'est drôle parce que cet article-là sorte aujourd'hui parce que je pense que c'est la semaine dernière qu'on en jasait avec notre collègue Mathieu Marcotte. Lui, sa fille est au secondaire, beaucoup plus vieille. Puis la semaine passée, il nous disait, je pense que là, j'ai atteint ma limite là, d'être capable de me replonger dans maths 5.36 puis toutes ces affaires-là, maths 4.36, 5.36. Là, j'aurais besoin d'avoir de l'aide aux devoirs. C'est sûr que c'est pas évident pour les parents, puis je comprends la base de l'article aussi, mais en même temps, en principe, quand on parle avec les enseignants ou les enseignantes, ils vont nous dire si on a créé ça, si on a fait évoluer, c'est justement pour favoriser l'apprentissage des enfants. On a une job, par exemple, comme parent, de se garder au goût du jour. Fait que, tu sais, la personne qui dit qu'elle a un bac en enseignement du français, c'est vraiment cool, mais ton bac en enseignement, tu l'as fait quand? S'il date d'il y a 5 ans... tu devrais être à jour. S'il date d'il y a 15-20 ans, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont évolué, qui ont changé. Moi, je t'avouerais que la plateforme AlloProf est vraiment un bon outil pour moi. Pas pour mes enfants, mais pour moi. Parce qu'il y a une section pour les parents puis il y a une section pour les enseignants. Tu n'as pas le choix de faire de la formation continue.
Ouais.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais pour être en mesure d'aider tes enfants, ça m'a fait capoter, Max, parce qu'il y a quelques semaines, on reçoit un document d'une quinzaine de pages à peu près. Mon plus vieux est en 4e année du primaire. Mais là, cette semaine, il y a les examens du ministère en français. 2 examens de lecture, 1 examen d'écriture. Puis le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, « Hey, il est en 4e année. Un document de 15 pages, ça va être correct, là. Tu sais, laisser les enfants jouer à un moment donné. » Mais finalement, de me rendre compte que le document est vraiment bien fait. Et le document, c'est un outil pour les parents, pour aider les parents à préparer leurs enfants à ces 3 examens-là qui vont avoir lieu cette semaine parce qu'il y a des examens en 4e, en 6e année puis en secondaire 2 du ministère en français, si je me souviens bien. Mais honnêtement, après avoir lu le document, j'ai fait « Hey, merci, vraiment, merci pour la passe sur le tape. » ça m'a vraiment aidé à expliquer à mon fils, puis à mettre ça dans mes mots, puis m'assurer qu'on a eu une discussion. On n'a pas lu le document hier encore, on a eu une discussion pour être sûr qu'il comprenait. Voici les trois examens, c'est ça les tâches que tu vas avoir à faire. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu as des questions? Il y a des changements dans la langue française, il y a des changements en mathématiques.
Mais toi, tu as la chance d'être un parent relativement brillant.
Je vais le dire de même. Oui, j'accepte le relativement, tout à fait.
tes kids sont chanceux parce que, puis c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais c'est pas tous les parents qui vont être en mesure d'aider leurs kids tant que ça à la base. Fait que tu sais, juste ceux qui sont, c'est comme ça à la limite, à partir du moment où tu viens rentrer des nouvelles affaires de même, là, puis que l'aide au devoir à l'école, c'est pas nécessairement toujours facile à avoir, puis c'est sûr que tu vas en perdre, là.
Ben, tu sais, je regarde juste l'école où vont mes garçons, Max, là, puis il y a beaucoup d'immigration dans le secteur où j'habite. Pis,
c'est une autre affaire.
Ça a toujours été comme ça. Tu sais, moi, quand j'étais petit aussi, tu sais, Limoilou, ça a souvent été un secteur, Limoilou, Vanier, puis où il y avait beaucoup d'immigrants. Puis dans les dernières années, on a beaucoup d'immigration, des gens qui arrivent avec un français plus international. Fait que c'est sûr que quand tu arrives avec un français plus international, la façon d'enseigner le français en Europe, entre autres, n'est pas la même. C'est pas pareil comme ici, tout à fait. Ça reste que c'est relativement les mêmes règles grammaticales, mais on n'utilise pas la langue de la même façon. Fait qu'il y a de ces enfants-là qui doivent être accompagnés par les parents aussi parce que les profs ne peuvent pas faire la job au complet à eux-mêmes. Puis là, on fait face à des enfants à qui on leur demande de désapprendre pour réapprendre la bonne façon d'utiliser la langue qui est pourtant leur langue maternelle. Mais t'as raison, tu sais, il faut que les parents s'impliquent. Je pense qu'on a une base d'auditeurs ici à Boulevard qui sont des parents comme ça aussi. Si vous êtes parents, c'est des parents qui s'impliquent dans l'éducation des enfants. Mais on ne peut pas jouer le rôle avec le système d'éducation qu'on a en ce moment de dire eux autres, là, dans Baptiste là-bas, quand on va porter nos enfants là de 8h à 16h du lundi au vendredi, là, ils s'occupent de tout. T'sais, on a la job d'éducation de la vie en général, tout le côté social et tout ça, mais t'as pas le choix comme parent à un moment donné de te remettre les deux pieds dedans pour être sûr de comprendre c'est quoi les matières que voient tes enfants parce que t'sais, des fois, moi, mon plus vieux, je te dis, il est en quatrième année puis il revient à la maison avec des examens que j'ai à signer. Il y a toujours des évaluations les vendredis. Fait que j'ai ça dans l'agenda la fin de semaine. Des fois, t'sais, je suis obligé de relire une puis deux fois parce que je vois toute sa démarche, puis je vois que lui, il a compris, puis moi, je comprends pas. Il y a 10 ans, tu sais, à un moment donné, t'es comme, OK, moi, à 39, je suis supposé comprendre ça, là, mais t'as pas le choix de te remettre dedans.
Puis là, on parlait de la nouvelle grammaire, que même moi, je checkais ça vite fait tantôt, puis je comprenais comme rien, là. Mais là, on rentre pas dans la nouvelle orthographe avec oignon qui s'écrit O-G-N-O-N, plus de I,
ah oui.
Avec nénuphar qui s'écrit avec un F au lieu de PH.
Ouais.
On a tout changé les mots. Ça aussi, ça doit te mêler des parents solides.
Ben,
là.
Ça, parce que tu sais, des fois, c'est que tu t'ostines avec tes enfants.
Oui.
C'est comme, non, c'est correct de l'écrire. Ben non, tu sais, t'apprends à écrire. Fait que c'est pas correct, là. Il y a une faute, là. Non, je te le dis. Ouais. Madame Julie, elle m'a dit que c'était correct à l'école. Fait que là, avec toute la technologie qu'on a maintenant, on est rendu avec un paquet de moyens de communication avec les profs. Fait que là, t'écris à la prof. Hey, Madame Julie, comment ça se fait que t'as dit à mon fils que nénuphar, ça s'écrit avec un F?
Parce que c'est rendu correct.
Ben, parce que c'est rendu correct, tu sais.
Je vois aussi, j'ai fait une petite recherche rapide pour trouver qu'est-ce qui avait changé. Mettons, avec la fameuse nouvelle orthographe, le tréma, des fois, qui est changé de lettre. Fait que toi, mettons que t'écris en ambigu. Puis là, tu t'ostines avec ton enfant que ambigu, le tréma, il est sur le E à la fin.
Ouais.
Ben, il est rendu sur le U.
OK.
Fait que là, c'est rendu qu'on change les accents de place aussi.
Puis ils ont fait exprès de prendre ce mot-là pour que ça soit le plus ambigu possible.
Ben, là, c'est l'exemple aussi. Que j'ai. Là, ils l'ont fait avec une couple de mots. Mais en effet, belle ironie que ça tombe sur ce mot-là.
Mais tu vois, il y a un truc là qui... Puis je sais là, que je vais peut-être me faire lancer des rushs en disant ça, mais moi, je fais partie des gens qui pensent que le permis de conduire, par exemple, n'a pas d'âge. On devrait être obligé aux 5 ans ou aux 10 ans de refaire un test de conduite. Je pense que ça aussi, différentes matières scolaires en mathématiques ou en français, c'est refaire l'épreuve uniforme de français une fois de temps en temps pour se replonger dedans puis être sûr qu'on continue.
Là, on n'a pas le temps, là, mais je sais pas. Non, ça sert à rien.
Demain, on jase de ça demain. Okay. Non, ça sert pas à rien parce qu'encore plus avec l'intelligence artificielle qui apparaît dans nos vies, on est en train de devenir de plus en plus niais.
Tu vas te faire poivrer mon woke de Limoilou. Là.
Je sais bien, mais écoutez, gars, vous voterez pour moi quand je vais devenir mère.
À demain. Nathan.
Salut, à demain.
Au retour, Jeff Fortin avec On en jase. Nous, on se retrouve demain. Ciao, bye.
Restez là. Dans